18h-20h, Time Foot Weekend avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Beurre FM dans votre émission Time Foot du lundi au vendredi, je le rappelle, de 21h à 22h et le samedi comme aujourd'hui, 18h-20h durant 2h. Notre mondial prend bientôt la fin. C'est la fin, oui, mais notre émission, non, pas encore, car on vous aime, chères auditrices, chers auditeurs, et on restera ensemble jusqu'à ce lundi soir, et on espère pour fêter le sacre de l'équipe de France et les hommes de Didier Deschamps. Durant ces 2 heures, on parlera de cette petite finale entre la Belgique et l'Allemagne, mais aussi l'avant-finale de demain du côté de Moscou entre la France et la Croatie. On n'oublie pas le hashtag TimeFoot pour essayer de remporter le maillot de la Croatie ou est-ce de l'équipe de France sur la twittosphère, mais aussi le standard, on vous le donne au 01 53 48 3000. Ce soir avec moi durant cette émission, on accueille Saïd Hamda, consultant Time Food. Comment ça va, Saïd?
Ça va super bien, merci pour l'invitation encore une fois.
Et merci à toi, Saïd, avec Nabil Zindi, conseiller sportif, qui nous accompagne.
Salut Bilal, salut à tous.
Tu vas bien?
Ouais, impeccable.
Haider Naïmi, qui nous vient tout droit de Toulon, j'allais dire, non, mais de Lyon.
De Lyon.
Consultant Time Food. Comment ça va, Haider?
Ça va, Bilou. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde.
Mariama Benrabia, journaliste chez nos confrères d'Eurosport. Comment ça va, Mariama?
Ça va très bien, au top.
Et enfin, Nassim Bourras, consultant Time Food, sans oublier Alexandre Seban. Comment ça va, Nassim?
Le calvaire prend fin, ça va.
Et notre auteur et journaliste, Alex.
Salut Bilal, ça va? Bonjour à tous.
Ouais, on est bien rempli là.
Ouais,
là,
on est bien.
Moins,
on est bien.
Oui, c'est ça, c'est ça. On va commencer avec alors justement, on avait le match de 16h qui opposait la Belgique à l'Angleterre, excusez-moi, mais on va partir sur une large partie de Time News avec un Time Mercato.
Time Foot Weekend. Foot Weekend. L'analyse.
Adrien Rabiot au Barcelone, le PSG doit-il le laisser partir? Est-ce un futur crack? Et aussi ce milieu de terrain parisien avec un énorme potentiel pour certains ou peut-être un énorme flop pour d'autres. Alex, on t'écoute concernant le cas Adrien Rabiot.
Tu as commencé par dire est-ce que Paris doit le laisser partir, mais la question c'est est-ce que Paris elle a vraiment la possibilité de le retenir?
Aïe.
Parce que il est à un an de la fin de son contrat. Donc c'est le meilleur moment pour lui justement de faire monter les enchères avec son club actuel, donc le PSG, et d'être intéressé par des propositions qui lui viennent aux oreilles comme celle du FC Barcelone. Je pense que, en tout cas en ce qui le concerne, il devrait partir. Il a besoin de grandir, de changer de mentalité, de devenir un autre joueur, quelqu'un de différent, prenant maturité, d'être dans un encore plus grand club que le PSG, puisque le PSG n'est pas encore réellement au niveau du Barça, et voilà, d'aller se confronter à des très grands joueurs, Messi, Suarez. Il retrouvera Umtiti aussi qui est là-bas, son compatriote. Donc une belle expérience à prendre pour lui, et s'il le peut, oui, c'est mieux pour lui qu'il s'en aille.
Nabil, on sait que tu es un fervent supporter de ce joueur qui est Adrien Rabiot. Tu aimes bien comment il se place sur le terrain, oui.
Je l'ai connu petit.
À la formation parisienne aussi.
Pas très très loin d'ici,
ouais.
Dans le Val-de-Marne.
C'est ça.
Et effectivement, non, c'est un joueur talentueux, c'est une vraie pépite, un vrai parisien. Donc ça fait toujours bien d'avoir un joueur de Paris, de la région parisienne, qui va défendre ses couleurs. Il a 23 ans, il a démontré en Ligue des Champions, notamment contre le Real Madrid, je m'en souviens qu'il avait marqué. Cette année, il a été titulaire, en sachant que le PSG n'a pas beaucoup de milieu de terrain, puisque Thiago Motta a pris sa retraite. On a recruté en décembre Lassana Diarra, qui lui reste un an de contrat, mais qui ne joue pas trop, qui n'est pas à la hauteur. Donc, si j'étais Rabiot, effectivement, je partirais à Barcelone, parce que Barcelone, ça se refuse pas. Il lui reste qu'un an de contrat, puisqu'il arrive en fin de contrat en juin 2019. Donc, effectivement, à sa place, et en sachant la déclaration qu'il a pu avoir, notamment lorsqu'il a été sélectionné en équipe de France réserviste, qu'il a refusé, je suis conseillé de partir de la France et effectivement d'aller à Barcelone, mais sans aucune hésitation. Et du point de vue du PSG, je le laisserai pas partir, parce que c'est un joueur talentueux.
Haider, ce titi parisien.
Moi, en ce qui
le
concerne, je le trouve pas mal. Maintenant, il y a toujours le révélateur qui manque à Paris au niveau européen. Et en ce qui concerne Rabiot, je pense que Barcelone, c'est le moment d'y aller pour deux raisons. D'abord, de son côté, c'est de voir ce qu'il vaut réellement. Et surtout, à Barcelone, il y a des places à prendre. Iniesta arrête. Busquets, c'est sur la fin. C'est la fin d'une époque. On va rentrer dans une époque où ça y est, les choses vont changer à Barcelone. On a passé 10 belles années. Messi aussi va pas tarder à tourner la page.
Ouais, comme au Real.
Donc il y a vraiment un gros changement de cycle. Et il y a une place à prendre à Barcelone. Et là, on va voir ce qui vaut réellement. Moi, a priori, je l'aurais plus vu dans un club du calibre de l'Atlético Madrid. Mais si vraiment c'est le grand joueur qu'il prétend être, normalement, il peut faire son trou à Barcelone. Après, il ne faut pas qu'il nous fasse une Dugarry, une Dehu, parce que les joueurs français qui se sont imposés à Barcelone, moi, j'en connais que deux. Hein. Ouais. Il y a Ludovic Gioli et Eric Abidal. Les autres.
Umtiti est en train, voilà.
Ouais. Enfin, moi, Umtiti, il est très critiqué à Barcelone. Hein. Il est là-bas surtout faute de mieux. Oui. Même si c'est un très bon joueur.
Le Barça a-t-il vraiment besoin de ce joueur qui est Rabiot, Mariama?
La question est-ce que le Barça a besoin de lui? Je ne suis pas sûre.
Non.
Je ne suis pas sûre, mais lui a besoin du Barça, oui. Il aurait besoin de grandir un petit peu. Il faut dire quand même que ces derniers temps, au PSG, il a pris un peu le melon.
Oui. À l'étranger, ils arrivent toujours justement à bien mûrir.
Disons que dans un grand club entouré de grands joueurs comme Messi et Suarez, évidemment, ça le fera grandir.
Ouais.
Parce que de toute façon, il ne sera pas la star de l'équipe, ça c'est certain. Et puis autour de lui, avec des grands joueurs de ce calibre, forcément, ça le remettra un peu à sa place.
En fait, à l'étranger, les Français, ils progressent en termes de respect et de maturité pour une raison simple, c'est qu'à l'étranger, ils sont confrontés à ce qu'on appelle des institutions. Paris, en France, Paris, c'est pas encore une institution. C'est un club avec des gros moyens.
Oui.
C'est un grand club, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas encore une institution avec ce que ça implique de palmarès, d'histoire, de symbolique. Et puis Paris traîne encore cette. Bon, ils sont en train de s'en débarrasser petit à petit. Mais limite de club qu'on respecte pas. Et on n'a qu'à voir la manière dont Neymar s'est comporté vis-à-vis de sa pseudo-blessure, de sa convalescence. Jamais de la vie, il fait ce qu'il a fait. Je vais aller me soigner au Brésil, bye bye.
Avec le Real.
Avec le Real,
avec le Barça.
Impossible.
Ouais, le Bayern.
Impossible. Donc c'est, je pense que ouais, le fait d'être confronté à une véritable institution, ça peut aider Rabiot à comprendre les véritables exigences du foot de
Madrid. Écoute, Saïd.
Non, je pense que Rabiot doit aller à Barcelone parce qu'il arrive à la fin d'un cycle. C'est un peu comme Serge Aurier. Il arrive à la fin d'une histoire avec le PSG. Aujourd'hui, il a une opportunité au Barça. Le Barça, comme Haider le signifiait, Iniesta est parti, Paulinho est parti. Il y a de la place, il y a une place à prendre. Surtout qu'il a que 23 ans. Donc, je pense que le Barça, quelque part, a besoin de lui parce qu'ils vont essayer de le pérenniser à ce poste pour à peu près une dizaine d'années s'il arrive à s'imposer, bien sûr. Aujourd'hui, il a besoin de passer un palier. Il va prendre en maturité, il va découvrir une nouvelle culture. Les joueurs français qui partent jeunes vers l'étranger, en fait, c'est grâce à la culture des différents pays qu'ils évoluent parce qu'on réfléchit pas comme en France. Il faut savoir qu'en France, on a une mentalité quand même très particulière, beaucoup d'immigration, etc. C'est un mélange de cultures, ce qu'ils ont un peu moins dans les pays européens. Et c'est là où il va pouvoir peut-être être un peu moins dans sa démarche joueur de quartier, etc. Et comprendre que ça va devenir un grand professionnel.
Ouais, comme un joueur de quartier, Rabiot, hein, tu l'as sorti.
C'est le cas, il n'y a pas que lui, je peux en citer d'autres, mais il se comporte encore comme un jeune de quartier.
Il a du caractère, mais on s'est compris, Saïd. Oui.
Non, Rabiot a du caractère, donc on sait très bien qu'il y a eu quelques soucis avec Zlatan Ibrahimovic, qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, mais je pense que justement... Voilà, il a un esprit, il a cette mentalité, et je pense que justement, voilà, c'est un joueur talentueux. C'est pourquoi Deschamps l'a sélectionné. Et tu disais tout à l'heure, ça dépend des pays, parce que les jeunes qui s'exportent, notamment en Angleterre, ils réussissent pas trop. Là, l'Eldorado pour les jeunes, c'est plus l'Allemagne. Donc là, le choix de Barcelone à 23 ans, c'est à double tranchant, parce que effectivement, Barcelone c'est une institution, mais si on connaît bien Rabiot et vu ses déclarations et son comportement et son agent qui est sa maman Véronique. Peut-être qu'il va rester au Paris Saint-Germain, attention, parce qu'elle bluffe beaucoup, sa maman.
Ouais.
Sa maman bluffe beaucoup.
C'est une vraie rumeur, l'histoire du Barça
mais c'est une vraie rumeur.
C'est une vraie rumeur.
Sur Paris.
Je pense que c'est une vraie rumeur, sachant que
le PSG est déjà en train de négocier avec lui pour le conserver.
Ça.
Voilà. Et sa maman le fait souvent pour revaloriser son salaire.
C'est ça que je demande.
Donc c'est une question d'argent.
Pour revaloriser son salaire, ou est-ce que c'est un vrai. Il y a une vraie. Est-ce que c'est juste parce qu'Abidal était là pour aller voir des amis? Ou est-ce que c'est juste.
On a envoyé pareil avec Abidal pour.
De l'intox pour monter le contrat?
Non, moi je pense qu'il y a une vraie information quelque part là-dessus, parce que l'année dernière ils avaient déjà essayé de recruiter en Ligue 1 avec Seri. Aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure,
et Kanté aussi,
aujourd'hui au milieu de terrain, mais Kanté ça va être
Verratti
plus difficile. Rabiot aujourd'hui, on a vu que les relations avec Thomas Tuchel sont pas des plus cordiales. Des plus cordiales. Il a déjà refusé de déplacer ses vacances pour parler avec le coach, etc. Donc ça part pas sur une super histoire d'amour. Donc je lui conseille doublement de partir. Le Barça, ils vont s'intéresser à lui. On a vu en Serie aujourd'hui la signe à Fulham.
Ouais,
il est parti l'année dernière, il n'est pas parti. Ouais. Le foot va très vite.
Une offre de 40 millions d'euros pour Rabiot serait-elle une excellente affaire pour les Parisiens, Nassim Bourras?
Totalement.
Ouais.
Surtout que Tuchel, il vient avec une nouvelle identité de jeu, un nouveau projet, voir les nouveaux joueurs. 40 millions, c'est pas de refus pour lui, surtout qu'il y a le fair play financier derrière. Donc il va falloir un peu renflouer les caisses. Derrière, oui, Rabiot a l'opportunité d'écrire une nouvelle page de son histoire. En France, c'est un peu compliqué. Il s'est mis un peu les Français à dos avec cette histoire de sélection réserviste. Là, il devrait faire comme d'autres l'ont fait avant lui, comme Ribéry, comme Benzema, aller entre guillemets s'exiler à l'étranger.
Ah ouais, carrément, tu le mets dans le même sac. Ah ouais.
Non, mais
il est banni.
Il y a un peu de ça. Mais après, il a le talent, bien sûr.
Mais vraiment, je défends Rabiot. Ouvertement, moi, je le défends parce que Rabiot, il est sympa, même en zone mixte. Moi, j'ai toujours aimé Rabiot.
Il n'y a pas de souci.
Moi aussi, j'ai toujours aimé ce joueur.
Il est sympa, il a respectueux, Rabiot.
Je dis même qu'il a le talent.
Je jure, Nassim.
Non, mais il n'a pas le background qui va lui pourrir. Il n'a pas le même profil de Benzema qui va le pourrir. Rabiot, suffit qu'il fasse un bon match, une bonne sélection en équipe de France. Je m'excuse, merci. Au revoir, on a oublié.
Tout à fait. Bon, on sait très bien
que c'est pas la même ambiance qu'autour de
Rabiot. Moi, je dis qu'il a le talent pour s'imposer dans ce nouveau Barça, dans ce nouveau, parce que ça va être carrément une nouvelle histoire pour le Barça et pour le Real. Donc oui, il y a moyen pour lui de s'imposer en tant que titulaire. Après, est-ce que le Barça de Rabiot et des nouveaux joueurs, c'est-à-dire Umtiti et Ter Stegen, sera meilleur que le précédent? Ce sera une autre question, mais en tout cas, il a le potentiel pour y arriver.
Alexandre, c'est bon, on l'écoute concernant le cas Rabiot.
Oui, c'était pour dire 40 millions, moi je trouve pas ça énorme.
Je suis d'accord avec ça, mais ça pas cher payé du tout.
Un petit peu triste pour le PSG.
C'est pas énorme, mais il lui reste qu'une saison.
Alors, tu as raison de le signaler, il reste un an de contrat, donc c'est vrai que 40 millions, c'est peut-être bon à prendre, on est obligé de le prendre, on a peut-être le couteau sous la gorge, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un joueur qui a montré qu'il a été l'un des meilleurs joueurs du PSG ces dernières saisons. Ligue des Champions, il a fait partie de ceux qui ont élevé le niveau. Je crois qu'il avait même marqué le but à Madrid, si je dis pas de bêtises. Il a montré des capacités, il a du ballon au Barça. Je pense qu'il est capable de rayonner au milieu de terrain. Il peut apporter quelque chose à la fois défensivement et offensivement. Effectivement, il doit modifier un peu sa mentalité, mais en tout cas, pour le Paris Saint-Germain, 40 millions, c'est bon à prendre, mais je l'aurais plutôt vu partir aux alentours de 60-80 millions.
Non, mais 40 millions, c'est le prix d'appel.
C'est un peu beaucoup.
Non, mais 40, c'est le prix d'appel. Mais je veux dire, c'est tout bénef. Il sort du centre de formation, ce gars-là. Il a rien coûté à Paris.
Mais c'est la pépite.
Donc, c'est le Parisien, quoi. C'est aussi un Parisien. Imaginons que Paris l'ait acheté. Je dis une bêtise. Imaginons que Paris l'ait acheté 20 millions il y a quelques années.
C'est vrai.
Tu mets 40 millions d'euros de plus, ça fait 60 millions. On dit, c'est un super transfert.
Non, mais bien sûr.
Mettre 40 millions
bénéfices.
Non, mais c'est le prix du marché. On regarde surtout le prix du marché.
Et démesuré alors que Rabiot
non mais après moi il y a un truc,
j'ai
23 ans,
autre chose, mais ça va jamais plus.
J'ai toujours dit de toute façon sur le montant des transferts actuels, et on l'a vu avec le transfert de Neymar au Barça, aujourd'hui les transferts ne sont plus du tout axés sur les capacités sportives du joueur, de deux on sait très bien que il y a une partie du montant du transfert qui est déclarée aux médias et à la presse et que le reste se fait sous la table.
Oui,
de trois, on sait très bien maintenant que la plupart des transferts de joueurs de football sont souvent entachés d'opérations de blanchiment d'argent.
Ouais, depuis des années.
Donc moi je pense que polémiquer sur le montant des transferts c'est inutile parce qu'on n'en sait rien.
Moi je suis pas d'accord.
Je pense qu'on peut s'attarder sur le prix du transfert, parce que là tu réfléchis pas comme un homme d'affaires. Les footeux, on va pas se mentir, les clubs c'est des entreprises. 40 millions, c'est pas cher donné. Le PSG n'a pas le couteau sous la gorge pour le vendre. Ils peuvent le conserver. Il a un volume, un coffre de jeu qui lui permet d'avoir une place titulaire l'année prochaine. Le PSG n'a pas sur le banc quelqu'un qui peut le remplacer Manu Militari. Donc aujourd'hui, 40 millions, certes, il sort du centre de formation, mais on peut pas se contenter parce qu'on l'a pas acheté 20 millions il y a 3 ans, etc. Le PSG, ils n'hésitent pas à payer au prix fort les joueurs chez les autres clubs. Pourquoi les autres clubs ne paieraient pas au prix fort au PSG?
On est dans une tendance de surévaluation des joueurs.
Certes, mais c'est valable pour tous les clubs.
Vous estimez qu'il vaut plus de 40 millions par rapport à cette surévaluation. Mais si on se remet dans le contexte logique de la logique des choses, qui fait que le joueur vaut tant, à un an de la fin de son contrat, il vaut 40.
Malheureusement, ce contexte n'existe pas plus.
Et quand on regarde justement quelqu'un comme Ronaldo, qui a été transféré pour 105 millions, effectivement, pour moi, Rabiot aujourd'hui, ça en vaut 40 et ça ne vaut pas 60.
Ah. Ronaldo a 33 ans.
Mais lui, il reste qu'un an de contrat. Donc, au final,
PSG pourrait le prolonger. Ils ne sont pas obligés de le vendre à si bas
coût. Il y a
des joueurs qui seront en dehors du contexte. Par exemple, Mbappé, Neymar, Ronaldo et Messi seront toujours hors contexte et on ne pourra pas les comparer aux autres. C'est-à-dire là, pour le coup, à Rabiot. Après, les 40 millions, pour le coup, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour le PSG parce qu'il est en fin de contrat dans un an. Donc, dans un an, il peut partir théoriquement libre. Après, après, ouais, c'est une aubaine parce qu'en fait, il peut très bien régresser au PSG. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le PSG n'a pas réussi à tirer la pleine valeur de Rabiot. Rabiot est un excellent joueur, un joueur d'avenir pour l'équipe de France et pour le football mondial. Le problème, c'est qu'au PSG, il est, comment dire, dans un cocon, il est trop protégé. Il y a sa mère aussi avec lui qui joue également un rôle qui peut être positif comme négatif. Et au PSG, il faut bien se rendre compte que le club parisien n'a pas réussi à tirer le plein potentiel de Rabiot et que 40 millions pour un joueur qui peut très bien perdre en rendement l'année prochaine, c'est une très bonne offre.
Après, je corrige juste un truc, Saïd. Quand j'ai dit qu'il ne faut pas s'attarder sur le prix des transferts parce qu'ils ne sont pas révélateurs, je te dis, je vais le dire un peu plus cash, c'est que 40 millions, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on te dit, c'est ce qui est déclaré.
Ouais, voilà, ouais.
Mais on sait très bien que les sommes qui sont en dessous sont beaucoup plus importantes et elles n'obéissent à aucune logique sportive. Ouais. Quand je te rappelle, il y a quelques années, le Real Madrid vend quand même Mesut Ozil qui était en pleine bourre à Tottenham et en même temps il y a comment il s'appelle, il y a Gareth Bale qui arrive
Arsenal
et Gareth Bale qui arrive de Tottenham pour 100 millions. Les gens n'y voient rien. Moi perso, j'y vois juste un échange d'argent entre Londres et Madrid. Point. À partir de là, faut pas être trop naïf non plus.
Rapidement, Nassim, avant la pause.
Faut pas oublier que maintenant,
c'est aussi d'avoir Nabil.
Il fonctionne sous forme de spéculation. C'est-à-dire que là, pour le coup, Rabiot est jeune. Donc c'est pour ça qu'on spécule sur son avenir. Comme on a spéculé, le PSG a spéculé sur l'avenir de Mbappé et que les clubs allemands spéculent souvent sur les jeunes joueurs, notamment les clubs de Red Bull. Donc en fait, voilà, on est dans un monde de spéculation, un peu de trading de jeunes footballeurs. On spécule sur leur potentiel. Et si leur potentiel se dévoile, eh ben, on touche le gros lot et on peut prendre 120 millions quand on a réussi à prendre 120 millions à Monaco.
Moi, je suis d'accord avec les propos de Mariama.
Ouais.
À un an de contrat à 40 millions, pour un milieu de terrain, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est bien vendu, je trouve que c'est bien vendu. 60 millions, 80 millions, ça me paraît un peu beaucoup. Il n'est pas encore, il n'a rien prouvé en équipe de France. Effectivement, il est bon avec le Paris Saint-Germain. Il lui reste qu'un an de contrat. 40 millions, bien sûr, on le vend tout de suite.
On reste ensemble, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000 pour réagir avec vos consultants. Sans oublier aussi le maillot de foot à gagner, peut-être celui de la sélection de la Croatie ou même celui de la France avec le hashtag TimeFoot. On reviendra encore sur un Time Mercato. On traversera la Manche pour arriver dans la capitale anglaise du côté de Chelsea, les Blues. À de suite.
Time Foot Weekend revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h, Time Foot Weekend, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, il est 18h23, on est ensemble jusqu'à 20h. Je le rappelle, chers auditeurs, de Beurre FM, on n'oublie pas, vous pouvez remporter le maillot de la Croatie ou même de l'équipe de France sur la Twittosphère avec le hashtag TimeFoot et en followant le compte officiel de votre émission sur Twitter. Le standard, on n'oublie pas, le 01 53 48 3000, c'est ce soir avec moi. Durant ces 2 heures, je le rappelle, Saïd Hamda, consultant de TimeFoot, Nabil Zindi, conseiller sportif, Haider Naimi, notre consultant lyonnais, Alexandre Seban, auteur et journaliste avec nous, Mariama Benrabia, journaliste chez Eurosport, et sans oublier Nassim Bourras, spécialiste du grand Kaiser allemand, c'est ça Nassim ?
C'est ça. Le Kaiser allemand qui s'est fait éliminer par la Corée du Sud.
Aïe, ça fait de la peine. En tout cas, vous pourrez retrouver, pourquoi pas, la Bundesliga dans la fameuse émission de Mohand que vous pouvez retrouver demain à partir de 18h jusqu'à 20h avec le coach Nasser Sandiak, sans oublier Nawel dans Fou de Sport. Nous, on reste dans le Time Mercato du côté de l'Angleterre.
Time Foot Weekend. Foot Weekend. L'analyse.
Et les Blues de Chelsea, Chelsea fait-il une grosse erreur en laissant partir l'entraîneur Antonio Conte? On t'écoute, Mariama. Deux choses à dire, en tout cas.
Une grosse erreur, peut-être pas, non. Non, je dirais pas que c'est une grosse erreur. Alors, certes, il a remporté un titre de champion et une Coupe d'Angleterre. Donc, au niveau du palmarès, c'est plutôt une réussite, j'ai envie de dire. Mais comme la deuxième année, il ne s'est pas qualifié pour les Ligues des Champions, on peut pas attendre de Chelsea qu'il fasse une saison aussi blanche, en fait. Enfin, blanche. Pas totalement, puisqu'il y a eu la coupe, hein. Mais forcément, il fallait du changement. Il faut du changement dans cette équipe. Et je pense que pour les joueurs, surtout, il va falloir que les choses évoluent et que ça change dans le jeu aussi. Parce que Chelsea n'avait pas un jeu très prolifique, ni très joli à voir.
C'était pas le Barça, comme dirait Griezmann.
Ouais.
Ah, ça a craché. Hein.
Je vais pas dire que je suis fan du jeu du Barça.
Ouais. L'ancien jeu était beau, quand même.
Ouais, c'est pas faux. Tiki-taka. Avec Saïd.
Non, je pense que c'est une bonne solution pour Chelsea. Ouais. C'est vrai qu'Antonio Conte va partir par la grande porte. Au final, bon, il fait une très bonne première saison.
Une coupe, un championnat.
Une deuxième un peu moins bien, mais ce sont les exigences des grands clubs. Surtout que derrière, il y avait l'opportunité de prendre Maurizio Sarri, qui est le coach de Naples. Et Sarri, cette année, a mis tout le monde d'accord sur la philosophie de jeu qu'il a réussi à créer avec Naples. Surtout Sarri, c'est une bonne solution parce qu'il vient avec lui dans ses valises avec Jorginho. Jorginho, dont on parlait à Manchester City depuis des semaines. Il suffit que Sarri signe à Chelsea, que Jorginho a fait un revirement et qui est parti voir un coach qu'il aime beaucoup. Et Jorginho, c'est un super joueur. J'attends de le voir associé à N'Golo Kanté, ça promet vraiment.
Allez, deux spécialistes du football italien. On part avec Sarri dans le sud de l'Italie. Sarri peut-il réussir du côté de la Tamise, Alexandre?
Pourquoi pas? Après tout, Conte a réussi. Il avait quitté la Juve quand il est parti pour rejoindre Chelsea, je crois. Hein.
L'Italie,
la tête de l'Italie d'abord, à ce moment-là plutôt. Et non, pourquoi il réussirait pas? Il a une très bonne philosophie de jeu. Il a fait très bien jouer son équipe ces dernières années. Donc oui, il y a une possibilité. Le championnat anglais, de toute façon, on l'a bien vu avec les arrivées de Klopp, de Guardiola. Il y a maintenant bien longtemps, avec Arsène Wenger qui a lui aussi proposé du jeu. On voyait des équipes jouer au ballon. Donc pourquoi pas lui, il raterait son intégration. Non, moi je pense qu'il peut réussir. Chelsea avait besoin d'être dynamisé, de sortir de cette période de flou. Il y avait eu le titre, il y avait eu des bons moments. On n'a pas vraiment compris pourquoi ça avait vraiment chuté tout d'un coup. Ce Chelsea, puis bon, voilà, il y a besoin d'un nouveau discours, d'un nouveau dynamisme. Sarri, pourquoi pas? Alors, ouais, il peut nous faire plaisir, et puis ça permet aussi au championnat anglais d'ajouter un élément supplémentaire pour sa grandeur et pour son intérêt, en tout cas.
Sarri du côté de l'Angleterre, dans la lignée peut-être des Marcello Lippi ou encore Arrigo Sacchi ou Carlo Ancelotti, non? Avec toi, Haider.
Non, moi perso, les entraîneurs italiens en Angleterre, je suis pas fan parce que les Italiens, effectivement, ils sont très portés sur la tactique. En Angleterre, déjà, bon, on n'aime pas trop quand il faut trop réfléchir et qu'il faut rester derrière et puis qu'il faut trop se casser la tête.
Mais là, ce sera un peu moins le cas avec Sarri.
Ouais, mais même, justement, moi, je le vois. Bon, il était dans un contexte particulier à Naples. Il y avait aussi une ferveur qui entourait le club, qui ne trouvera pas forcément à Chelsea. Il va avoir un petit public de bourgeois qui va applaudir et qui va crier de temps en temps. Mieux que Conte, je ne sais pas, parce que Conte aussi, on s'attendait à ce qu'il fasse Monts et Merveilles là-bas après le super euro qu'il a fait avec sa bande de bras cassés en France. Et oui, non, parce que l'Italie, excuse-moi, ce qui est arrivé, ça pendait au nez de l'Italie depuis longtemps. C'est un exploit ce qu'il a fait Conte avec la Squadra en France il y a 2 ans. On s'attendait, alors oui, comme l'a dit Mariama, il a un beau bilan, il a gagné le titre, il a gagné la coupe, sauf que pour un club du calibre de Chelsea, la coupe d'Angleterre, c'est pas suffisant, et surtout une élimination en Ligue des Champions, c'est pas suffisant. Alors ce nouvel entraîneur, moi il m'a déçu sur la fin du championnat, parce que quand tu bats à la Juve et que tout le monde s'attendait à Naples, on a tous vu la fameuse vidéo, il y avait les feux d'artifice où c'était la fête, ouais. Et puis après tu vas te faire allumer à la Fiorentina qui est en mode touriste, et puis que t'arrives pas à rattraper, c'est une équipe de coups. Après bon, on va pas jouer au devin, il peut parfaitement réussir. On sait que Arsène Wenger, lorsqu'il arrivait à Arsenal, ils avaient dit Arsène who, finalement il a montré ce qu'il savait faire. Je lui souhaite de réussir. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, je le répète, les entraîneurs italiens en Angleterre, pas trop fan.
Nassim, peut-être le contraire pour toi.
Moi je suis encore moins fan de virer les entraîneurs rapidement. C'est-à-dire qu'un grand club, s'il veut se mettre à gagner de grandes choses sur le long terme, il faut qu'il reste avec un entraîneur de façon stable. Et c'est pas le cas de Chelsea qui, depuis son titre en Ligue des Champions contre le Bayern en 2012, il me semble, c'était 4 entraîneurs qui sont suivis derrière. C'est-à-dire il y avait Benitez, Mourinho, Hiddink, Conte et maintenant Sarri. Bon, je vois pas trop où il va en venir. Ok, d'accord, il a fait une mauvaise saison, ça peut arriver. Encore mauvaise entre guillemets parce qu'il gagne quand même un titre, ce qui est pas donné à tout le monde. Alors ok, il va pas en Ligue des Champions, d'accord, mais bon, ça a fait de Chelsea naturellement le favori pour la Ligue Europa l'année suivante, ce qui aurait pu être pas mal pour relancer une équipe. Mais je pense que la véritable raison pour laquelle Conte est parti, c'est simplement ses relations avec Abramovich qui ont été exécrables.
Ouais. On va revenir justement sur la relation du président londonien. Nabil, avec toi,
il a tout dit.
De Sarri.
Effectivement, ouais, je pense que Chelsea change beaucoup de coach. Donc on savait très bien que Conte allait rester 2 ans ou 3 ans maxi.
On a l'habitude avec ce club.
Je pense qu'il a un fort caractère et on a dû lui imposer certains choix qu'il n'a pas acceptés. Et donc, on l'a viré pour cette raison, parce que être champion et puis gagner une coupe, c'est plutôt pas mal, hein, sur deux ans, en sachant que c'est le championnat qui est le plus indécis, où il y a des vrais entraîneurs en Champions League, avec Mourinho, avec Pochettino, et bien d'autres. Donc, j'étais surpris de ce choix. Sarri, je ne suis pas convaincu avec ce qu'il a fait avec le Napoli. Ouais. On les voyait déjà champions et ils se sont écoulés, même si bon, il y a quelques cadres qui se sont blessés, mais ça ne justifie pas que cette équipe du Napoli s'est écroulée alors qu'elle avait beaucoup de points d'avance, je crois, que sur la Juve ou les autres concurrents.
Chelsea peut-être sur la pente descendante, tout s'écroule avec le président qui n'a pas encore le droit d'exercer ou même je crois, son permis de séjour. Merci. C'est surtout le permis de séjour d'Abrahamovic qui ne lui a pas été donné encore. Mariama, le club, on sait, il ne peut pas recruter pour le moment, on nous dit, suite à cette affaire. Mais vraiment.
Mais ils ont pris Jorginho.
Non, mais on le dit pour des gros dossiers, pour vendre et aussi racheter
S'ils doivent faire des montages financiers, des machins, ils y arrivent.
Ça porterait problème.
Mais Bilal, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce club a gagné une Ligue des Champions, certes, mais il a le même palmarès que l'OM, l'Étoile Rouge de Belgrade. En Angleterre, il a un palmarès inférieur à celui de Nottingham Forest. Il a le même palmarès que West Ham.
Double champion de la Champions League, c'est vrai.
Chelsea n'est pas encore une institution. C'est un grand club qui a gagné le respect depuis 15 ans.
C'est ça, Alexandre.
Depuis 15 ans.
C'est vrai, un grand investisseur aussi.
Mais voilà, bon, c'est un grand animateur du mercato, c'est un grand club du championnat d'Angleterre.
Mais ça pose un problème aujourd'hui.
C'est une institution qu'on respecte et avec tout ce que ça implique.
Après, moi, je vois pas en quoi l'éviction de Conte surprend. Sur cette année, faut quand même se rappeler qu'il était beaucoup moins concentré par le football. Dès le début de saison, il a exprimé, par exemple, ses états d'âme, son mal-être du pays, etc. Il s'est brouillé avec David Luiz, qu'il n'a pas fait jouer, alors que David Luiz, il a coûté 40 millions. Il s'est brouillé avec Diego Costa, qui lui aussi était un super joueur. Il s'en est passé pendant 6 mois, puis il est parti à l'Atlético Madrid. En hiver, il a pris Giroud. C'était pas spécialement justifié, alors qu'il se débarrasse de Batshuayi, qui fait une très bonne saison, une deuxième partie de saison, au Borussia Dortmund. Donc aujourd'hui, moi, je vois pas en quoi c'est surprenant. Sa gestion de son effectif était très, très limite. Donc, Conte, c'était écrit qu'il allait partir aujourd'hui. Ouais. Je vois pas comment les gens peuvent être consternés.
Allez, pour terminer, peut-être la réponse avec toi, Mariama.
Non, j'allais revenir justement sur cette interdiction.
Alors justement, l'interdiction.
Il y a d'autres clubs auparavant qui ont été privés de recrutement au mercato, et ça leur a pas forcément desservi. Ça leur a pas empêché effectivement de gagner des titres derrière.
Le Real Madrid.
Je pense que pour.
c'est des clubs
je
comme
pense
le Barça,
notamment Real Madrid, oui. Mais pour Chelsea, ce sera pas forcément une mauvaise chose en fait, parce que ça leur permettra peut-être de leur laisser un peu plus de temps pour se reconstruire et donc peut-être de travailler avec les jeunes aussi.
Ok. Pour toutes ces informations concernant ce Time Mercato, peut-être d'autres choses à rajouter avec toi, Alexandre Seban,
sur le Mercato.
Où en est-on avec un certain Mario Balotelli, avant la pause?
Pourquoi pas à l'OM? On ne sait toujours pas vraiment s'il signe ou pas. Mario Balotelli,
c'est toujours le flou.
On l'a vu venir, on aurait dit une star de catch qui arrive dans sa limousine ou tout, qui rentre à la commanderie. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On voit Marseille.
Il est resté à Marseille ou il est parti?
On ne sait pas, je crois qu'il n'est pas.
Président de l'OM, il fait ça, je lui dis descends pas de la voiture, rentre chez toi. Si vraiment tu veux.
C'est une mise en scène qui est un peu gênante.
Bien sûr, si vraiment t'arrives et que tu veux investir dans un club en lui donnant un peu de sérieux et prétendre que tu veux lui redonner son lustre d'antan, avec Bernard Tapie, fais pas ça.
Avec Nassim Bourras. On va voir s'il aurait fait ça.
Je pense que si, ils sont pas trop occupés par Balotelli en ce moment, parce que justement, il y a un autre dossier qui est sur le point de se finaliser, celui de Chaï Tachar. Donc le défenseur remplaçant de l'équipe de Croatie.
C'est ça.
Qui joue au RB Salzbourg.
Exactement.
Et qui devrait normalement venir à l'OM pour 20 millions d'euros. 20 millions, beaucoup vont dire comme quoi c'est une grosse somme pour un défenseur qu'on ne connaît pas.
Aujourd'hui, non.
Je leur réponds que vous ne le connaissez pas. Ah voilà. Et que moi, je le connais et qu'il est énorme. Donc, il s'imposera directement en tant que titulaire.
Il sera meilleur que Rolando ?
Il sera meilleur que les deux actuellement.
C'était une blague.
Rolando, Rami, même, je pense qu'il pourrait être très certainement l'un des meilleurs défenseurs centrales qui ait connu l'OM ces 15 dernières années. Parce que vraiment, il a un énorme potentiel. Et si Marseille arrive à le faire développer correctement et dans le bon sens avec un projet OM Champions Project qui s'annonce intéressant, il y a vraiment moyen que cette année, l'OM ait une défense vraiment solide.
Et champion de France.
La logique en général à Marseille, elle n'est pas trop à prendre en compte hein, parce qu'il y a un contexte particulier, une ambiance particulière. Il y a des super joueurs qui sont arrivés à Marseille, ils ont explosé en vol. Donc,
mais moi, je prends le cas par exemple d'un autre joueur qui est venu, c'est pas d'Autriche mais d'Allemagne pour le coup, c'est Gustavo qui a su parfaitement rentrer dans le moule marseillais.
C'est pour
alors
ça
que
je dis, ça dépend.
Quand je le voyais arriver, je me suis dit Gustavo à Marseille, ok, Wolfsburg c'était pas top top. Est-ce qu'il prend Marseille pour une fin de carrière? Eh ben non.
Gustavo avait fait ses preuves au Bayern notamment. Il avait été exceptionnel. Donc.
Oui, mais on aurait pu penser qu'il prenne l'OM comme une fin de carrière en fait, alors qu'absolument pas.
Ça dépend du professionnalisme du joueur. Mais t'as un gars comme Abdennour qu'on annonçait au Barça à droite, à gauche, qui avait un super match avec contre le Barça.
C'est bon joueur, c'est tunisien. Faut le rappeler.
Et le pauvre gars, il arrive à Marseille puis
il est obligé de se taper
un match blessé. On lui tombe dessus, il s'en relève pas. Bon là, j'ai vu qu'hier pendant les matchs amicaux, il s'accroche, il veut pas.
Non perdu contre Saint-Étienne.
Mais bon, apparemment, il a les encouragements de Rudy Garcia. C'est un peu comme les encouragements au conseil de classe, ça compte pour du beurre.
Vous avez compris, chers auditeurs, de Beurre FM. Quand ça parle du PSG, on est obligé de parler de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est comme quand on parle de CR7, on est obligé de parler aussi de Messi.
Messi, évidemment.
Une pause avant de revenir avec un bilan sur cette Coupe du Monde en Russie 2018.
Time Foot Weekend revient dans un instant. Beurre FM. 18h-20h. Time Foot Weekend. Avec Bilal Nenman.
Et on n'oublie pas, 18h45, on est ensemble jusqu'à 20h, chers auditeurs, de Beurre FM. Mais aussi, il ne faut pas oublier le hashtag TimeFoot pour essayer de remporter le maillot de la Croatie ou même de la sélection française sur la Twittosphère en followant le compte officiel de l'émission TimeFoot. Mais aussi, on vous laisse le standard, il est libre au 01 53 48 3000. Avec moi jusqu'à 20h dans ces 2 heures d'émission, Saïd Amda, consultant Time Foot, je le rappelle, Nabil Zindi, conseiller sportif, Haider, Naimi, consultant Time Foot aussi, on a Alexandre Seban, qui nous fait le privilège de nous accompagner aujourd'hui, auteur et journaliste, Mariama Ben Rabia, la seule fille aujourd'hui, journaliste chez nos confrères de Eurosport, et Nassim Bourras, consultant dans cette fameuse émission durant ce mondial du lundi au vendredi, 21h, 22h, qui est Time Foot, et aujourd'hui, 18h, 20h. Place à notre bilan de ce mondial en Russie.
Time Foot Weekend. Weekend. L'analyse.
Et le bilan, on va l'écouter, chers auditeurs, chères auditrices de Beurre FM, assez attentivement. Votre meilleur espoir de la compétition, vous pouvez nous en faire part sur la Twittosphère avec le hashtag TimeFoot, mais aussi vous pouvez nous appeler. Mariama, je me retourne vers toi. Pour toi, le meilleur espoir de cette compétition? On parle facilement d'un certain Kylian Mbappé, mais d'autres joueurs, notamment sur la sélection croate, avec un certain Rebic. Ante Rebic. Merci Nassim. T'en penses quoi, toi, sur ces joueurs de ce mondial, Mariama, honnêtement?
Je pense surtout que cette Coupe du Monde n'a pas été exceptionnelle. Elle n'a pas été très prolifique, autant dans le jeu que dans
on
les...
On la compare, excuse-moi, Mariama, à une Coupe de France, hein.
Ouf, oui, ça c'est pour les détracteurs. J'ai envie de dire que je pense un peu la même chose.
Ah oui, quand même.
Pour être très honnête, c'est la première fois de toute ma vie, je suis pas toute jeune, qu'en arrivant à ce niveau de la compétition, en fin de Coupe du Monde, je n'ai pas ce sentiment de nostalgie que j'ai d'habitude à la fin d'une Coupe du Monde en me disant ah bah, ça va me manquer, je regardais des matchs tous les jours ou presque et que c'était exceptionnel, c'était magnifique, le jeu était beau. Et bien là, c'est pas le cas.
Ah ben c'est bizarre parce que ton voisin aussi m'en a parlé en off. Et c'est vrai, Nabil, hein, on n'a pas cette euphorie telle que par exemple contre 2006 ou 98.
J'ai trouvé le niveau global de cette Coupe du Monde assez faible. Et surtout par rapport au jeu qui a été proposé par les différents acteurs de ce mondial, c'est-à-dire les sélectionneurs. Mais c'est super faible, c'est une Coupe du Monde défensif. J'aime le beau jeu, j'aime la Croatie, voir la Croatie jouer, j'aime la Belgique jouer également, mais malheureusement ils ne sont pas récompensés. Donc cette Coupe du Monde m'a déçu, au niveau des joueurs aussi, des révélations, ça n'a pas tellement, quoi. Franchement c'est difficile d'en trouver une.
Il n'y en a pas vraiment, non. C'est des joueurs qu'on connaît déjà, la Coupe du Monde, de nouveaux joueurs qui apparaissent qu'on ne connaissait pas forcément, des petits jeunes, et puis là, grand chose.
Moi, la Coupe du Monde, bon, faut pas abuser non plus, ça reste une Coupe du Monde quand même, mais je suis d'accord sur le niveau, et je pense que le coupable, c'est un monstre qui est en train de se développer depuis une quinzaine d'années et qui arrive à maturité. Coupable, c'est la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions a tellement vampirisé d'énergie, d'attente, de tout le monde s'investit tellement sur la Ligue des Champions que on a une Coupe du Monde où tout le monde arrive essoré, quoi. Alors oui, Cristiano Ronaldo a été flamboyant au premier tour. Lionel Messi dans une équipe de touristes. Neymar qui a plus passé temps à analyser la qualité du gazon qu'autre chose.
Ah, mais carrément. Et oh là là, ça clash les Parisiens.
On se retrouve en finale. Non,
c'est
mais
pas
oui.
bon ça. Olivier G serait là. Finale. Aïe aïe aïe.
On se retrouve en finale avec une Croatie qui a joué presque en marchant. Et une équipe de France qui a joué, mais en mode. Qui n'a rien à voir avec ses devancières de 2006, 98 ou même 82. On est dans une équipe de France qui est moche, quoi, qui va gagner la Coupe du Monde,
qui
peut-être.
Qui propose rien, quoi.
Et effectivement, on a un tournoi,
de l'équipe de France,
une édition 2018 qui est hyper réussie sur le plan de l'organisation, de l'ambiance, tout ce qu'on veut. Mm. Mais au niveau du jeu, je pense qu'à un moment donné, il faudra que la FIFA se concerte avec l'UEFA et qu'on baisse un peu le pied sur la Ligue des Champions, parce qu'on n'y voit plus.
Et je recadre rapidement.
C'est pas pareil, quoi.
Sur le meilleur espoir de la compétition.
Juste,
avec toi, Saïd.
Je vais juste faire le
rapide.
Parce que je suis pas d'accord avec toi. Je pense que tout le monde est
avec
frustré parce que les équipes qu'on attendait n'ont pas été au rendez-vous. Mais moi, j'ai vu des belles équipes. Certes, on attendait l'Espagne, on attendait le Portugal, on attendait l'Allemagne. On n'a pas eu tout
l'Argentine
ça.
Aussi.
Mais moi, j'ai vu une belle équipe du Japon. Je suis désolé, moi, ça m'a fait kiffer.
Mais c'est parce qu'il est plus jeune. Donc, non, il a vu moins de Coupe du Monde.
Ah, là, là, là.
La seule équipe attendue à son vrai niveau, c'est la Belgique. Oui, la Tunisie aussi a été attendue à son vrai niveau.
Les de Carthage.
C'était au moins zéro.
Premier tour.
Mais le seul favori qui a vraiment tenu son rang, c'est la Belgique et la France. Alors la France, bon, elle est arrivée, on savait comment elle allait jouer, comment elle allait arriver, mais la seule équipe qui a tenu son rang, c'est la Belgique. Et l'action symptomatique de tout ça, et Saïd a raison, c'est l'élimination de l'Allemagne.
Franchement,
c'est catastrophique.
Je vais continuer juste dans mon propos très brièvement. Moi, le Japon, ils m'ont fait kiffer, la Russie, ils m'ont fait kiffer, c'est des équipes qu'on n'attendait pas, mais voilà, il faut pas non plus tomber dans le diktat des meilleures équipes qu'on attend forcément.
Bien sûr.
Pour le meilleur espoir, je suis d'accord avec Mariama, on n'a pas eu de jeunes cette année qui se sont dévoilés. À l'Euro 2016, j'avais découvert Baroš Kapustka, qui était un joueur de Pologne et qui avait signé dans la foulée à Leicester, que j'avais beaucoup apprécié, il avait 19 ans. Bon, par la suite, il a pas fait grand-chose. Mais c'est vrai que lors de cette Coupe du Monde, on n'a pas de jeune qui a su s'émerger. Bon, à part Kylian Mbappé, qu'on attendait un petit peu. Voilà, à part lui, j'ai pas vu de jeunes sortir du lot.
Même cet après-midi,
je le connais
pas. J'ai envie de te dire que c'est pas le meilleur gardien.
Et sous l'œil attentif d'Alexandre Seban. T'inquiète pas, Alex, on arrive à toi.
Alors, oui, il a progressé depuis l'Euro Espoir, où je l'avais remarqué contre l'Allemagne, où il avait perdu. Mais c'est un peu amélioré, mais c'est pas non plus le gardien anglais de référence pour les prochaines années. Bon, c'est
Il est meilleur que la moyenne,
mais. Et voilà, ce sera pas le top gardien mondial. Après, concernant les meilleurs espoirs, je suis pas totalement d'accord avec la majorité de ce plateau.
Et pourquoi?
Parce qu'on a vu des jeunes joueurs très intéressants dans ce mondial. Alors, pas autant que dans les autres éditions, je suis d'accord avec vous.
Moi, j'ai bien aimé.
Cette Coupe du Monde a pas été extraordinaire, surtout que c'était assez stéréotypé comme match. On avait un gros qui avait la possession et l'autre qui attendait dans les 18 mètres avant de contre-attaquer. Bon, ça, c'était assez bof et ça se répétait assez souvent. Pour les meilleurs espoirs, moi, je note tout d'abord, on parlait d'Anthony Beach, qui on voyait pas vraiment à Francfort et qui a réussi à faire une saison assez bonne avec l'Eintracht et en plus qui est titulaire avec la Croatie et qui va en finale. Mais surtout, le numéro 1 des espoirs, sans compter Mbappé, c'est Benjamin Pavard.
Pavard pour toi, le défenseur français.
Bah oui, parce que je le vois à Stuttgart et franchement, il a vraiment réussi à s'améliorer, surtout sur le plan offensif. Parce que défensivement, et on savait qu'il était très tenace, il a été formé en tant que défenseur central. Il joue défenseur central à Stuttgart, mais en tant que latéral, il était assez moyen. Il a fait ses plus mauvaises prestations à Stuttgart en tant que latéral. Et là, l'équipe de France, avec les Bleus, il réalise tout simplement un mondial splendide, même si offensivement il y a encore des lacunes, il s'est grandement amélioré.
Alexandre. Ouais, je vais suivre aussi un petit peu Nabil avec d'abord Pickford.
Aussi.
Je vais suivre l'avis de Nassim également avec Rebic. On a vu aussi évidemment Benjamin Pavard. C'était une des révélations de ce mondial. On peut pas le nier. Lucas Hernandez a été très bon aussi. Il a tenu son rang.
Si on met Pavard,
évidemment,
on met aussi Hernandez.
L'avantage de Pavard, c'est ce but extraordinaire qui vient d'ailleurs qu'on reverra pendant des années dans les grandes images de cette Coupe du Monde.
Oui, mais il se rattrapait d'une erreur aussi.
Certes, un peu comme Lilian Thuram, c'est vrai, mais c'est un but. Tout de même,
il est magnifique, le but.
Cette frappe, elle est un peu à l'image de ce fameux coup franc de Roberto Carlos au tournoi de France. Elle sort, elle rentre. C'était magnifique. Mais bon, c'est vrai que finalement le vrai jeune qui a émergé, qui a époustouflé, qui a ébahi, on en parle partout, ça reste quand même Kylian Mbappé qui fait peur aux adversaires, qui à 19 ans seulement, quand il rentre sur la pelouse, il fait déjà peur à ses adversaires qui ont de la bouteille souvent face à lui. Il a montré qu'il avait voilà du ballon, qu'il avait une intelligence de jeu, qu'il avait peut-être une petite fâcheuse tendance à en faire un petit peu trop encore. Après, c'est les défauts de ses qualités aussi. C'est quelqu'un qui aime manier le ballon, mais c'est la perle du futur visiblement. Après, il faudra lui donner le temps, il faut le laisser faire. Il peut s'effondrer, évidemment. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais ouais, je dirais Kylian Mbappé
pour toi. Après, peut-être futur Ballon d'Or rapidement concernant l'espoir. On doit passer au meilleur joueur après.
La question de l'espoir, en fait. Pourquoi c'est vrai que bon, Kylian Mbappé, parce que l'espoir, c'est toujours le gars qu'on connaissait pas avant, qu'on a découvert.
Ne développe pas trop sur Kylian Mbappé. On arrive dans la partie Time Bleu.
J'ai vu un gars qui a montré des qualités intéressantes et qui a surnagé dans un naufrage collectif, c'est Pavone, le joueur argentin de Boca Juniors. Il a montré certaines qualités. Lui, je pense qu'on va pas tarder à en entendre parler bien comme il faut en Europe. Et il y en a un, j'ai pas vu une renaissance, mais une confirmation que vraiment okay, c'est un crack, c'est Willian.
Willian, pour
moi, tout le monde focalisait sur Neymar au Brésil. Quand Willian n'était pas dedans, bah, éliminé, quoi. Et quand il était là, les Mexicains, ils n'ont pas vu le jour. Ouais. Et ça, c'est un joueur vraiment, il a explosé pendant cette Coupe du Monde. Après, oui, au niveau des espoirs, bon, il y a Mbappé qu'on attendait, mais je te disais, Pavone, intéressant.
On l'attendait en France, Mbappé, et là, il est quand même vachement surpris aussi à l'étranger. Ça a été
un joueur qui a
totalisé le plus grand nombre de recherches sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, Kylian Mbappé. Ça veut dire que dans le monde entier,
on parle de Kylian Mbappé.
Il faut aller regarder, la s'intéresser. Star. Et donc, c'est une star.
Il y a un consultant de Time Foot, il avait prédit, c'est Nabil Zendjik, avec Mamadou Lamine Mané, qui connaît très très bien, tout comme Nabil, la famille Mbappé, le gamin de Bondy, et pourtant, il fait des merveilles. Moi, pour moi, Kylian Mbappé commence et s'apprête à voler la vedette à certains Neymar. Moi,
je l'appuie. Je crois qu'il sera champion du monde s'il veut demain. Il pourra rentrer dans le vestiaire du PSG et regarder Neymar droit dans les yeux.
Ça, c'est sûr. En sachant que Pelé brésilien, tu dis que la révélation de ce mondial, carrément,
sur les réseaux sociaux,
c'est Kylian Mbappé et non Neymar. Pelé, je suis désolé. Pelé, ça fait 30 ans, à chaque fois qu'il voit un gamin sympa, il sourit à tout le monde.
Non,
je suis désolé, mais
le
gamin tous les ans, Pelé.
Non, mais Kylian Mbappé. Pour le meilleur joueur avec Haider, débat Pelé ou Maradona, je sais bien.
La vraie révélation, c'est le fait c'est le jugement de Pelé. C'est pas une référence.
Sur la valeur.
Beckenbauer.
Il
n'y a pas eu que Pelé. Il y en a eu d'autres.
Les grands Marco Van Basten.
Pelé tous les ans, il adoube quelqu'un.
Donc, non, mais il n'y a pas eu que Pelé.
En tout cas, pour ce mondial,
tout le monde, que ça soit Maradona. Non, Maradona l'a dit très bien.
Mbappé, c'est un crack.
Il a été excellent contre l'Argentine.
Pour moi, le seul
gars. Il a fait très très mal. Mais nous, on le connaît parce qu'on a regardé les matchs de Ligue des Champions avec le PSG. On l'a connu à Monaco aussi.
On reviendra sur le cas Mbappé. Vraiment, on reviendra.
Deux ans qu'il joue au ballon.
Moi, je
veux
Et dans le monde entier, on parle de Kylian Mbappé.
Est-ce qu'on pourrait parler d'autres joueurs justement qu'Mbappé?
On doit aborder aussi le meilleur joueur de cette compétition, Mariama.
Pour moi, ça se joue entre Modric et Hazard. Les deux ont réalisé un super mondial. Alors certes,
et même
Modric
un match aujourd'hui.
Oui, super alors oui, exactement. Alors certes, Modric a été un peu moins bon ses dernières prestations et Hazard est toujours monté en puissance. Il a toujours été à son niveau, donc il est exceptionnel. Mais moi, pour moi, ça se joue entre les deux.
Les deux, Modric que tu connais si bien du côté de la Maison Blanche, je veux dire la Maison Blanche non pas du côté de Washington DC mais là, sur la plaine ibérique en Espagne.
Quand on parlait de Maison Blanche, je croyais aller avoir un clin d'œil et tout.
Non, bien sûr, la Casablanca.
Modric, en étant supporter du Real Madrid, en regardant énormément ses matchs depuis plusieurs années, c'est quand même un joueur qui me fascine. Je suis, on va dire, amoureux de ce joueur-là. Il a un pied gauche, pied droit, extérieur, intérieur, à gauche, à droite. C'est vraiment, il a un QI football comme j'en ai rarement vu. Et là, il a emmené une équipe de Croatie, comme je disais tout à l'heure, sur RT pour les citer, petit clin d'œil. C'est que Modric, son équipe de Croatie, a eu énormément de difficultés à se qualifier en Coupe du Monde, ça on l'oublie. Ils ont gagné face à l'Ukraine 2-0 alors que c'est passé in extremis. Ensuite, ils ont fait les barrages. Donc c'est une équipe qu'on n'attendait pas là et c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe aussi mal classée au classement FIFA arrive en finale. Donc rien ne prédisait ça. Aujourd'hui, Modric, il a porté cette équipe en tant que vrai numéro 10. Il faut savoir que quand il était petit, en Croatie, on lui donnait pas sa chance. On disait qu'il était trop frêle pour s'imposer au haut niveau et il a réussi aujourd'hui à être multiple vainqueur de Ligue des Champions et finaliste de Coupe du Monde. Qu'il la gagne ou qu'il la gagne pas, aujourd'hui, pour moi, Modric, Modric doit inscrire son nom dans le palmarès des meilleurs joueurs et par conséquent avoir le ballon d'or.
Mariama nous disait Modric et Eden Hazard. Pour toi, Nassim, avant de donner la parole à Eder.
Bah pour moi, ça va être un autre joueur. On parle beaucoup de Modric et de Hazard. A raison pour Hazard, un peu moins pour Modric sur cette Coupe du Monde. On le voit qu'il a été un peu rincé. Il a lui aussi souffert un peu de la saison qu'il a faite avec la Ligue des Champions. Ça n'empêche pas qu'il a fait une bonne Coupe du Monde, mais pas exceptionnelle. Pour moi, il y a un joueur qui a réalisé une Coupe du Monde exceptionnelle, c'est Kieran Trippier. Donc le latéral de
Tottenham
anglais, c'est ça, l'anglais,
Tottenham, et qu'on ne voyait pas venir. Aucun sélectionneur anglais n'avait pensé à lui. Il est plutôt jeune, il me semble qu'il a 27 ans. Donc c'est un joueur qui aurait dû être en sélection depuis bien longtemps, qui ne l'a pas été. Donc déjà grand coup de chapeau à Gareth Southgate qui a pensé à lui. Et puis franchement, défensivement il a été super bon, offensivement il a été super bon.
Une belle vision du jeu aussi. Hein.
Voilà, et c'est un des joueurs, même si ce n'est le joueur anglais qui a obtenu les meilleures notes tout match confondu dans cette Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une très très belle révélation, et c'est même le meilleur joueur tout court, parce que franchement, si l'équipe d'Angleterre est arrivée aussi loin dans cette Coupe du Monde, ben Kieran Trippier, et ben justement il est pas innocent dans cette affaire.
Avec Aider concernant le meilleur joueur
Eden Hazard,
de ce tournoi,
c'est un joueur magnifique.
Ouais, avec
Modric
Mariam,
qui porte son équipe, mais qui peut parfois être fragile psychologiquement, mais il y en a un autre qui a été monstrueux et qui était égal à lui-même, c'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est
le joueur.
Comme dirait l'autre dans un vieux film, c'est une vision sur le futur. Il vient d'ailleurs, ce gars-là. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, ce joueur. Il a un état d'esprit. C'est le gars, tu voudrais l'avoir en meilleur ami tout le temps. Il est au coéquipier. C'est un super joueur. Il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Et de toute façon, demain, le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, il va se jouer entre lui et Modric. Si, moi je pense que si la France gagne la Coupe du Monde, c'est pour Kanté. Si c'est la Croatie, évidemment, ça sera Modric. Mais si c'est la Croatie et que Modric fait un match moyen, le meilleur joueur de la Coupe du Monde sera Eden Hazard.
Alexandre,
il se fait tellement discret, Kanté, ouais. on finit presque par l'oublier.
Mais
c'est aussi parce que généralement, dans les Coupes du Monde, on se porte plutôt vers l'offensive, donc on regarde plutôt vers les attaquants.
Assez pertinent. Ou les milieux offensifs.
Effectivement, Kanté a été exceptionnel.
Une petite disait justement en conférence.
Non, je citerai
Alexandre.
Pas une phrase du promoteur d'Ivan Drago dans Rocky IV pour parler de notre ami N'Golo Kanté. Seulement, je citerai du coup, pour ramener ça un peu plus au football, à Gary Lineker qui a dit ça il y a quelques heures, je crois, ou récemment. Quand la France joue avec N'Golo Kanté, elle joue à 12. Donc, il a été monstrueux au milieu de terrain. C'est l'homme fort aussi de cette équipe de France, faut pas oublier, une des révélations finalement de ce mondial, même si bon, il est plus tout à fait jeune, il est un peu confirmé, mais pas vraiment, parce qu'il avait eu sa chance un petit peu à l'Euro, mais finalement il a été sorti de l'équipe titulaire, et puis bon, il a été monstrueux, il mériterait d'être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, ceci étant, comme le dit Mariama, elle a raison, c'est un milieu défensif, en général on a envie de porter à la lumière les joueurs offensifs, je dirais évidemment, bien sûr, je suivrai votre avis sur Eden Hazard et Luka Modric. Peut-être plus Hazard que Modric. Pourquoi ? Parce que effectivement, je trouve que Modric, du coup, il rayonne, mais comme il marque pas assez, et ben voilà, il est moins sublimé qu'Hazard. Lui, il a une plus tendance à aller vers la surface.
Après chacun son rôle. J'ai envie de te dire.
Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, ça joue un petit peu peut-être en sa défaveur. Ceci étant, moi personnellement, je suis d'accord. Je préférais quand même voir Luka Modric. Je l'ai personnellement tweeté il y a deux jours. La demi-finale, Luka Modric mérite. Il a été un des grands artisans des victoires en Ligue des Champions. Il faut le signaler quand même, parce qu'il n'y a pas que Cristiano Ronaldo Real Madrid. S'il n'y a pas ces joueurs à côté de lui, Ronaldo ne gagne pas ses ballons d'or et ne gagne pas ses Ligues des Champions. Luka Modric était un grand artisan, notamment aussi de la dernière Ligue des Champions. Il a pris sur ses épaules toute cette équipe croate. Ils ont eu des problèmes en plus, les Croates. Il faut s'en souvenir, elle a été décriée, cette équipe, dans leur pays. Ils ont eu des problèmes. Je sais plus si c'était une histoire de corruption ou des problèmes avec la fédération.
Modric,
je me souviens
plus très bien
exactement. Du coup, effectivement, il y a vraiment toute cette ferveur autour de lui. Il le mérite. C'est un très grand joueur, peut-être un peu à l'ancienne. Numéro 10, élégant. Mais peut-être un peu timide quelque part. On le voit pas assez rayonner, peut-être. Parfois, mais il mériterait d'être au moins ballon d'or un jour.
Comme Saïd Nabil.
Moi, c'est les joueurs que j'aime.
Le meilleur joueur.
Un peu à l'Iniesta en 2010, il aurait mérité le ballon d'or.
Complètement.
Il manquait peut-être un petit truc dans la personnalité.
C'est pourquoi je dirais Eden Hazard, parce que
Eden Hazard,
pour
toi.
Super bon match contre la France.
Tu connais bien la Belgique en plus.
Porte cette équipe belge. Faut savoir où il est passé en France. Il a été élu meilleur joueur plusieurs fois. Il est passé en première ligue. Il a été élu également meilleur joueur de première ligue. On l'attendait beaucoup en Belgique parce qu'il était décrié Eden Hazard comme un certain Léo Messi.
Chelsea. Et aujourd'hui, il a porté cette équipe. Il est capitaine, il porte le numéro 10. Il a été bon presque à tous les matchs. Il est décisif. Et contre la France, je suis désolé, mais pour moi, c'est le meilleur joueur. Que ça soit N'Golo Kanté. Ça, je crois que c'est son premier carton, N'Golo Kanté.
Sur le sol du stade l'autre jour.
Plusieurs, même N'Golo Kanté.
Il
y a eu un carton jaune, etc. Ouais. Non, c'est un joueur qui a tout. Ouais. Qui a une motricité basse, qui était fort techniquement, qui a ce coup de rein, cette accélération, qui a une bonne vision de jeu. Franchement, il est complet. Ouais. Luka Modric, pareil. C'est-à-dire que c'est des joueurs super intelligents, comme un certain Zizou, qui sont toujours un temps d'avance, ces mecs-là. Et c'est très, très rare de trouver des joueurs qui ont cette intelligence de jeu, qui vont donner le bon ballon au bon moment. Et ça, c'est des top players.
Après, très intelligent. Ce que vient de dire Nabil Zindik. On termine.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ça se fait très très rare et c'est pour ça que ça coûte super cher. Et d'ailleurs, Luka Modric, lorsqu'il est parti de Tottenham pour venir au Real, je crois que c'était
40 millions seulement.
40 millions seulement.
Mais à l'époque, ça va pas.
À l'époque, ouais.
Mais c'est beaucoup. C'est comme si tu disais 130 maintenant.
Voilà. Et à cette époque-là, je crois que Tottenham avait des bons résultats.
Ils avaient vraiment fait chier le Real Madrid pour le vendre. C'était vraiment très compliqué.
Mais Tottenham, on a connu Tottenham grâce aussi à Luka Modric.
On termine concernant le meilleur joueur de cette compétition avec toi, Saïd Eider. Avant la plus grosse déception.
Pour rebondir sur ce que disait Nabil, il faut savoir quand même que Eden Hazard, c'est un joueur que j'adore, hein, vraiment talentueux, N'Golo Kanté, ils ont une circonstance atténuante favorable. Disons, c'est qu'avec Chelsea, ils ont joué beaucoup moins de matchs, avec beaucoup moins d'intensité que ce qu'a pu faire le Real Madrid, qui a joué sur tous les tableaux. Donc forcément, ils arrivent à la Coupe du Monde un peu plus frais. Donc ça leur permet aussi de se montrer un peu plus que Luka Modric.
Mais je crois surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont économisés durant la saison.
Aussi.
Pour la Coupe du Monde, généralement, ça se passe comme ça. Hein, durant la saison, il y en a beaucoup qui s'économisent, qui vont plutôt... Il y allait un peu mollo pendant la saison pour être frais pour la Coupe du Monde.
Haider, on termine avec toi concernant le meilleur joueur.
Je l'avais déjà dit, oui, comme je te l'ai dit, pour moi c'est le trio Hazard, Kanté, Modric. Après, effectivement, Modric, sur la rareté du profil et sur la volonté, l'obstination de Deschamps à se passer de ce genre de joueur, je te le dis, je te le redis, si demain la France perd, on saura ce qui lui a manqué, c'est un Luka Modric, un numéro 10. Et si elle gagne, elle aura fait l'exploit d'être la seule équipe de l'histoire à gagner le mondial sans numéro 10.
C'est ça.
Et ça, c'est là où on voit que c'est hyper important.
Ah, c'est fou, Mariama, c'est vrai.
L'Italie 82 aussi, c'était pas non plus extraordinaire.
Ouais, ça remonte.
C'était très bétonné, très
défensif. L'Italie 82.
La meilleure équipe à l'époque, c'était le Brésil de Zico et Socrates,
Santana. L'Italie 82, non, il y avait de la qualité.
C'est un braquage, peut-être.
Il y avait de la qualité. Les gens, ils sont souvent.
La qualité, mais c'était hyper défensif.
Non, mais parce que le Brésil brillait beaucoup, mais il y avait de la qualité en Italie quand même.
On termine avec la déception de cette compétition. Mariama, pour toi, peut-être il y en a plusieurs.
Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est Neymar.
Neymar, aïe, aïe, aïe. Fait-on parler Neymar?
Il était très attendu sur cette Coupe du Monde. Il avait fait une Coupe du Monde exceptionnelle en 2014. Il avait porté son équipe jusqu'en demi, puis en demi, ça a été plus difficile pour lui. Enfin, il était blessé, donc du coup, il a pas participé à cette demi. Donc, on l'attendait sur cette Coupe du Monde en se disant peut-être que cette fois... il serait présent et qu'il porterait encore cette équipe jusqu'au bout.
Il était moins bon qu'en 2014, j'ai l'impression, quand même, Neymar.
Ah, il a été carrément moins bon. Mais il a passé beaucoup trop de temps au sol. Ouais. Donc, à un moment donné, on lui demande surtout d'être lui-même et de jouer et d'arrêter de se plaindre tout le temps et de rester par terre.
Bien sûr, ils avaient pourtant fait une très belle campagne éliminatoire, les Brésiliens. Neymar avait été au niveau. On avait vu émerger depuis deux ans les Firmino, les Gabriel Jesus, les Coutinho, les Paulinho et compagnie. Et c'est vrai que est-ce que finalement, moi c'est une question que je me pose, je me dis est-ce que Neymar, avec cette blessure contractée avec le PSG, qui est parti plusieurs mois, qui n'a pas joué depuis je crois 3 mois, il arrive sur cette Coupe du Monde en roue libre entre guillemets, même s'il a dit qu'il s'est préparé évidemment, mais il manquait peut-être de temps de jeu, manquait de foncier, il manquait peut-être de préparation tout simplement. Il a pas pu apporter ce qu'il a.
Les qualités,
qu'il aurait
les
pu.
A, les qualités, il les a. Il n'y a pas qualités. De problème là-dessus.
C'est vrai, mais peut-être qu'il manquait un peu de au fond peut-être de foncier, ouais,
un joueur de physique quoi. Peut-être qu'il a fait de l'ombre dans son équipe qui était Coutinho.
On va écouter Nassim concernant cette déception et peut-être Neymar. Et veut-on parler justement aussi de Neymar, mis à part le football allemand. Nassim, c'est la parole.
Ça m'étonne même pas que je mets même pas Neymar en déception parce que moi je m'attendais.
Normal.
Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un joueur qui sort blessé, qui n'a pas joué pendant 3 mois, honnêtement? À mon sens, même si c'est dur, ça peut paraître dur pour beaucoup,
c'est compliqué.
C'est déjà une erreur professionnelle d'avoir ramené Neymar à la Coupe du Monde.
Non, mais ça va plus.
C'est impossible.
Il avait la capacité de jouer.
C'est un grand joueur, mais le problème, c'est que c'est un leader à 80%, 60%.
C'est pas un leader du tout.
Est-ce que vous pouvez
un leader technique.
Bah, quand même, c'est un leader technique.
Du tout. Un leader technique.
Mais ce gars-là, moi je vais te dire, le pire truc qui lui est arrivé, c'est d'avoir été transféré au PSG et d'en avoir fait une pseudo-star. Ce gars-là, faut qu'il remette les pieds sur terre. S'il était né 10 ans plus tôt dans l'équipe de 2002, il est sur le banc de touche. Il est star au Brésil parce qu'il n'y a personne. Il se mettait au diapason. Il se mettait au diapason parce qu'il y avait Messi devant lui. Parce qu'il y a l'US Suarez. T'es pas la star, mon gars, donc tu travailles. Sa petite convalescence de 3 mois au Brésil, là, soi-disant, c'était des bêtises. Le pire qui lui est arrivé, c'est d'être là. Moi, pour moi, la plus grosse déception de cette Coupe du Monde, elle est collective, c'est l'Allemagne.
Rapidement,
c'est l'Allemagne. La grosse déception, même moi, ça m'a fait presque pleurer. C'est l'Allemagne.
On te sait supporter aussi de l'Allemagne.
Le pire qui puisse être arrivé, l'Allemagne. La grande Allemagne qui se retrouve à être éliminée au premier tour comme des minables.
À chaque Coupe du Monde, tu nous dis que c'est une grande Allemagne.
Bah oui, mais c'est quand même, c'est une équipe qui n'a jamais été éliminée au premier tour, qui quand elle est nulle, elle est éliminée en quart de finale, qui est en finale.
Ma belle père en finale en 2002, c'est vraiment naze l'équipe d'Allemagne.
Mais regarde l'histoire. Depuis 1966, elle est dans le dernier carré à chaque fois. Ça n'existe pas, un dernier carré sans l'Allemagne. Là, c'est catastrophique ce qui leur est arrivé. Donc, Neymar, oui, c'est une déception individuelle, mais on s'y attendait parce que ce mec-là, c'est un clown. Faut qu'il redescende sur terre.
Il y a des erreurs qui ont été commises en Allemagne.
Ils sont pas redescendus de leur nuage.
Pas seulement. Là, on peut revenir justement sur le gardien. Neuer qui avait pas joué un seul match, du coup, depuis plus de 6 mois, il me semble.
Il est pas fautif sur les buts, donc il y a pas d'erreur plus Neuer. Le problème, c'est le manque de production.
On voit bien que d'habitude, quand même, Neuer, il est confiant. Il porte son équipe, il parle à ses coéquipiers et là il se passe rien.
Les buts qu'il prenne, c'est pas de sa faute.
Non, bien sûr, mais ça manquait d'attaquants aussi.
Il y avait des attaquants aussi dans cette équipe.
Et après il y a autre chose aussi, c'est que dans cette Coupe du Monde et même depuis quelques années, le jeu a changé et donc il est resté Joachim Löw, il est resté sur un jeu de possession.
Ah oui, il
n'est plus
Guardiola,
du tout actuel.
Alors,
voilà, le jeu à la Guardiola, ça les a un peu tués. Alors le jeu du Bayern, on va y revenir parce que c'est Guardiola qui est arrivé au Bayern. La plupart des joueurs jouent au Bayern dans cette équipe. Et donc c'est plutôt un jeu à la Guardiola qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est plus du foot actuel.
Alors merci Nassim, rapidement parce que le temps passe, la première heure est déjà passée. On entame la seconde.
Là concernant Neuer, c'est pas exactement le même problème que Neymar, même si ça y ressemble. Neuer, lui, a été décisif sur certains match de la Mannschaft. Il a été trop souvent mis à contribution et il n'a pas été inutile. Le problème est venu de ce qu'il y a devant lui, et notamment au milieu de terrain, parce qu'il y a eu un énorme quiproquo sur qui faire jouer en meneur. Mesut Ozil n'est clairement pas au niveau. Le problème, c'est que Joachim Löw... Le plus gros problème de Joachim Löw, ça a été la victoire à la Coupe des Confédérations. Parce qu'à la Coupe des Confédérations, c'est une équipe B qui a remporté la compétition. Du coup, il ne savait pas sur qui s'appuyer. Est-ce qu'il s'appuie sur ceux qui ont fait de l'Allemagne un champion du monde en 2014, ou ceux qui représentent l'avenir et qui ont remporté la Coupe des Confédérations à la surprise totale en 2016. Et là, du coup, Joachim Löw était le cul entre deux chaises, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, il a voulu essayer de faire un mix, mais ça n'a pas fonctionné.
Il a
un Goretzka qui est meneur de jeu, il le met et il y a moins, alors que c'est pas son poste. Il préfère faire confiance à Mesut Ozil qui a été mauvais comme pas possible.
Et Müller aussi.
Il joue avec des centres sur un Werner qui n'a pas la taille pour jouer comme ça.
Ça y est, on écoute avant de terminer, et la pause avec Nabil.
Déjà, l'Allemagne, on oublie qu'ils n'ont pas pris le roi Sané, qui était un des meilleurs allemands sur la saison.
Ça, c'était normal.
Bon, tu m'excuseras si on part sur un principe de méritocratie. C'est pas normal de pas prendre le meilleur joueur, sachant qu'il pose pas de problème.
Il a été sélectionné 12 fois, il a pas été foutu d'en mettre un, donc
c'est pas un finisseur.
C'est même pas question de marquer des buts. C'est l'attitude sur le terrain. J'ai vu les 12 matchs de Leroy Sané en sélection.
C'est pas le seul.
Ce n'est pas le seul, je suis d'accord. Mesut Ozil méritait de ne pas y être. Mais Leroy Sané, sur les 12 matchs de sélection qu'il a fait avec la Mannschaft, ce n'est pas le même qu'à City.
On l'a terminé, Saïd.
Il est titulaire tout de suite.
Merci.
Après, moi, je vais revenir aussi sur Mesut Ozil.
Rapidement.
Parce que, non, mais Mesut Ozil, quand même, il a été quand même lynché en Allemagne, lui et Gundogan, parce qu'ils ont fait une photo avec Erdogan. Et on en a fait un problème public. C'était devenu l'ennemi numéro un. Aujourd'hui, le père de Mesut Ozil dit que si mon fils a un peu de dignité, qu'il ne joue plus pour cette sélection. Comment vous voulez qu'un joueur soit à 100% dans son mondial quand on sait qu'en fait on lui crache partout à la tête. Et juste pour revenir après très brièvement sur le pire joueur de cette Coupe du Monde, moi je dirais pas que c'est Neymar. Neymar, il était surattendu. Sa blessure en France, personne voulait le soigner. C'est pour ça qu'il allait au Brésil. Il a juste voulu gratter 3 mois et ne pas se blesser réellement en Ligue 1. Ouais. Donc ce qu'il a fait, c'est bien fait pour lui. Ça lui apprendra à se foutre de la gueule du monde.
Peut-être.
Donc Neymar, pour moi, il était pas. C'est pas une déception dans le sens où c'est le 3e ou 4e meilleur joueur du Brésil.
Qui, alors,
pour moi, la plus grosse déception, et il y en a certains qui vont me trouver dur, c'est Lionel Messi, parce que
Lionel Messi,
Lionel Messi n'est plus, il n'est plus attendu depuis des années, depuis longtemps, on sait qu'il ne fait rien en sélection. Il n'a jamais fait grand chose. Non, je vais pas dire non. Alors là, je suis d'accord.
C'est pas ça.
C'est plus. Ça,
j'ai lancé.
C'est plus audible. C'est plus audible. Alexandre, s'il te plaît.
Mariama n'a pas le droit de dire Lionel Messi ne fait rien en sélection si l'Argentine est en coupe du monde.
Qu'a-t-il fait dans les éliminations? Voilà, merci. Merci Yanis. Il t'arrivait quoi là, ça y est?
Il
est 19h12. Je dois lancer aussi moi le Belgique-Angleterre, 3ème place. Et après, le fameux time bleu. Vous allez me dire qu'après qu'on n'a pas le temps. Non, et aussi après, ils vont rester sur leur faim, nos pauvres auditeurs.
Si je dis que Messi.
On enchaîne, il a une réaction aussi, Nabil.
Si je dis Messi que sans argumentaire, il y a des gens qui vont m'insulter. Alors, je prends mes précautions.
Techniquement, zéro.
La petite pub pour Alexandre Seban, c'est aux éditions Solar, c'est Messi versus Ronaldo. Magnifique livre.
Messi.
On continue.
Merci. Pourquoi? Parce que c'était à cet âge-là, c'est là où on l'attendait dans sa dernière grande compétition. C'est vrai que Messi, on dit que l'effectif de l'Argentine, c'est pas trop ça, mais il joue quand même avec des stars. Et là, excusez-moi, il faut que Messi sorte un peu sa zone de confort. Il va pas jouer avec le Barça toute sa vie. Donc là, moi, il était surattendu. C'est la dernière grande compétition. On attendait Messi. Messi n'a pas toujours rien fait en sélection. Il a emmené son équipe en Copa América en finale à plusieurs reprises. Malheureusement, il a jamais été capable de la faire gagner. Mais là, sur cette Coupe du Monde, il a pas eu cette aura de leader.
Saïd, la déception pour Nabil. Nabil,
c'est une déception, Lionel Messi. On peut trouver des excuses avec les joueurs avec lesquels il joue, etc. Mais je suis désolé, mais il n'a pas été au niveau, c'est-à-dire requis, c'est-à-dire moyen. Il n'a pas été du tout bon, même moyen. Je l'ai trouvé, mais une catastrophe, quoi. C'est lui qui fait les choix avec qui il a envie de jouer. Mentalement, apparemment, il crée une sale ambiance au sein du groupe, dans le vestiaire. Il ne porte pas cette équipe. Il a tout gagné. C'est deux échecs, je crois. Finale de Copa América.
Et
finale 3.
Même 3.
Là, on l'attend. Confirmation, il a plus de maturité. Barcelone n'a rien fait en Ligue des Champions.
La déception pour toi aussi.
Et là, techniquement, il a été mauvais. Même techniquement, il a été mauvais.
Nabil, pour toi aussi, la déception. Mais c'est la déception.
Grosse déception, pas déception.
Chers consultantes et consultants de Time Foot, une courte pause avant de revenir avec ce fameux match qui est opposé pour la 3ème place. J'en perds. La Belgique à l'Angleterre. À de suite avec le hashtag Time Foot.
Time Foot Weekend revient dans un instant. Beurre FM. 18h-20h. Time Foot Weekend. Time Foot Weekend avec Bilal Nenman.
Et de retour, on a entamé la seconde heure jusqu'à 20h. On est ensemble avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On n'oublie pas le hashtag TimeFoot pour essayer de remporter le magnifique maillot ou de la Croatie ou même de l'équipe de France sur la Twittosphère. On follow le compte officiel de votre émission spéciale Coupe du Monde sur l'antenne de Beurre FM du lundi au vendredi 21h, 22h et le samedi comme aujourd'hui à 18h, 20h. La dernière émission, elle sera lundi en live à partir de 21h avec le hashtag Time Foot, le standard. Vous pouvez le composer, le numéro, le 01 53 48 3000. Avec moi dans cette émission, Saïd Hamda, consultant de Time Foot, Nabil Zindi, conseiller sportif, Haider Nemi, consultant de Time Foot. Durant ce mois de mondial, Alexandre Seban, auteur et journaliste. Magnifique livre sorti aux éditions Solar, Ronaldo versus Lionel Messi. Mariama Benrabia, journaliste et nos confrères de Eurosport. Et sans oublier, Nassim Bourras, consultant de Time Foot. Enfin, nous avons parlé, de Mercato. On a parlé aussi de Chelsea, on a fait un bilan plus précisément de cette phase finale de Coupe du Monde en Russie. On va s'attarder sur ce match pour la 3ème place en Russie. La Belgique est opposée à l'Angleterre.
Time Foot Weekend. Foot Weekend, l'analyse.
L'analyse parfaite avec votre consultante et les consultants autour de la table pour m'accompagner. On rappelle les faits de ce match, 16h du côté de... J'ai oublié la ville, Nassim. Vraiment, la ville où avait eu lieu ce match. J'ai un trou. Vraiment, j'ai eu un trou. Le match de la troisième place. Nassim, je sais pas s'il est là. Alexandre, vraiment, j'ai oublié.
Regarde avec,
ouais. Enfin, on rappelle les faits et on donnera le nom du stade.
C'est
et
à Saint-Pétersbourg.
Saint-Pétersbourg. Ouais.
La Belgique justement joué pour la troisième place contre l'Angleterre. Et les Belges ont gagné 2-0, but de Thomas Meunier à la 4e minute et d'Eden Hazard à la 82e.
La Belgique a-t-elle de nouveau joué comme la France, qu'ils ont tant critiqué après avoir remporté, avoir perdu ce match pour les Diables Rouges et aussi les hommes de Didier Deschamps après avoir remporté cette fameuse demi-finale. Pour toi, Ider, on t'écoute.
Non, ils ont joué leur jeu, ils ont été... bon, et après, c'est sûr qu'il y a moins de crispation parce que bon, c'est la médaille de bronze, t'es pas en train de jouer pour une place en finale de Coupe du Monde, mais ils ont été sérieux, ils ont joué leur jeu. Eden Hazard, il a été égal à lui-même, efficace. Donc je pense que les Belges ont respecté la compétition. On a vu Pickford qui était pas mal aussi en face en Angleterre. Après, c'est vrai que pour Eden Hazard et toute l'équipe belge, c'était un peu plus facile parce qu'ils avaient en face d'eux la première ligue sans les stars étrangères.
Aïe.
Donc c'était un peu mieux.
Chose quand même.
En ce qui concerne les Anglais, je pense qu'ils sont contents de leur Coupe du Monde. Hein. Ils s'attendaient pas à faire une aussi belle performance. Ils finissent quatrième. Ils sont à une bonne place parce que la plupart du temps, moi je pense qu'avant la Coupe du Monde, je t'aurais dit quart de finale maximum pour les Anglais. Donc non, on a eu un match de la troisième place qui a été disputé, qui a été respecté et une Belgique qui a bien joué. Et dont les meilleurs joueurs sont exprimés comme ils ont l'habitude de le faire.
Mariama, ce match pour la troisième place, Belgique-Angleterre.
Oui, je suis d'accord avec Eder. Cette équipe de Belgique a respecté son jeu. Elle a été plutôt bonne offensivement. Elle a retrouvé aussi Meunier, qui avait manqué justement
buteur,
en demi.
Vrai.
Donc
ouais. Le Parisien.
Oui, oui. Donc et puis Eden Hazard toujours à son niveau, toujours au niveau où on l'attend.
Magistral.
Donc exceptionnel. C'est une équipe de Belgique qui mérite sa troisième place, sa meilleure performance de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc, moi, je suis pas étonné qu'elle soit à ce niveau. Je crois que c'était l'une des plus belles équipes de ce mondial, l'une de celles qui a produit le plus de jeux. Donc, on a pris plaisir à la voir jouer. Et c'est très bien comme ça. Donc, l'Angleterre, effectivement, méritait peut-être pas plus. On l'attendait pas à ce niveau non plus. On l'attendait plutôt effectivement maximum en quart. Elle a réussi son mondial. Ça faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas, depuis 66, hein, qu'elle n'avait pas atteint.
90.
Non, pas atteint les demi-finales, mais jouer pour la troisième place.
Elle avait 90 aussi.
En tout cas, elle n'avait pas remporté de médaille. Voilà,
sur
Lineker,
ouais.
Du coup,
médaille,
de toute façon,
médaille,
oui, c'était ça. Ouais, c'était plutôt ça.
Elle avait terminé.
Donc du coup.
Après,
ouais.
Moi, je pense que ces deux équipes, la Belgique, on a eu une génération qui s'est vue être gâchée pendant 3 ans et demi par Marc Wilmots. Je pense que ces deux équipes sont pleines de promesses pour l'Euro 2020 qui arrive à toute vitesse.
En 2014, c'est vrai que sur le papier, on imaginait qu'elle irait très loin. Et ça n'a pas été du tout le cas, mais je crois que c'était effectivement à cause de Marc Wilmots.
Le sélectionneur belge.
Qui n'a pas su exploiter au mieux les forces de cette équipe.
Peut-être.
Il fallait peut-être un sélectionneur étranger pour cette équipe de Belgique. Ils ont un sélectionneur belge. Marc Wilmots avait peut-être trop du coup la mentalité belge. Et de ce que j'ai cru comprendre ou entendu en tout cas, c'est qu'ils avaient du mal dans cette mentalité à justement sortir de ce complexe d'infériorité que peut-être qu'ils faisaient à un moment donné dans les grandes compétitions et là je crois que Roberto Martinez leur a apporté un peu plus de sérénité dans le staff, il y avait Thierry Henry aussi, il leur a apporté de la sérénité, de l'expérience, ils ont réussi à se sortir de leur mentalité et à repousser leurs limites, ils ont pratiqué un des plus beaux jeux de la Coupe du Monde, ça c'est vrai et c'est vrai, tu as raison de le souligner, Eder, c'est que l'Euro 2020 arrive très vite et l'Angleterre qui a fait un bon mondial, qui n'était pas là pour aller chercher le trophée à la base, hein, on l'avait dit il y a quelque temps, Darren Southgate avait dit voilà, on vient prendre de l'expérience, il s'attendait peut-être pas lui-même à arriver en demi-finale, à finir dans le troisième ou quatrième aujourd'hui, mais c'est des équipes qui vont nous proposer de très belles choses, je pense, à l'Euro 2020, et
Ouais. Elles vont être attendues. Effectivement, la Belgique mérite d'être là.
Après, il y a un bémol
c'est une belle
sur
équipe
Martinez.
En devenir.
Alors justement,
il y a un bémol sur Martinez.
Rapide, Aider. Parce que Nassim voulait enchaîner sur le jeu.
Tout le monde sait que pour la Belgique, c'était l'année ou jamais. Maintenant, il y a quelque chose parce que à l'heure du bilan, on va effectivement louer le jeu de la Belgique, mais par contre, on va quand même lui reprocher quelque chose.
La défense à 3.
Qu'est-ce que non, même pas. Est-ce qu'on aurait pu battre la France si Nainggolan avait été là? Alors il y en a qui vont dire peut-être que si Nainggolan avait été là, la Belgique n'aurait pas atteint ce niveau. Mais c'est une question qu'on se posera toujours. Il y en a qui vont dire bon, il a bien fait de pas prendre Nainggolan, ils font une belle troisième place. Il y en a d'autres qui vous diront si Nainggolan avait été là, peut-être que la Belgique.
Est-ce que c'est pas Thomas Meunier finalement l'absence préjudiciable?
L'absence, elle lui change le
match.
Dans
ce match-là, ça lui a changé le système. Il s'est trompé peut-être dans sa remise en place.
Système. Ouais. Mais on va aussi parce que bon, Meunier, c'est indépendant des choix du sélectionneur. Il prend un carton.
Oui, bien sûr. Mais du coup, il a reformaté son équipe.
Va poser des questions. Il y en a qui vont dire qu'il a bien fait, il y en a d'autres qui vont dire qu'il a mal fait. Quoi qu'il en soit, je pense que pour la Belgique, c'est quand même une belle compétition. On aurait bien voulu les voir sur la plus haute marche du podium parce qu'ils le méritaient vraiment. Il faut rappeler quand même que c'est un petit pays de 11 millions d'habitants.
C'est sûr.
Qui arrivait à sortir une super génération comme ça et c'est fait. Et c'est la deuxième fois en moins de 30 ans qu'ils le font. Enfin, en moins de 30 ans, 32 ans.
Merci Aider. Merci
s'il l'avait fait aussi.
Nassim Bourras, on t'écoute.
Oui, bah justement pour
avant de terminer sur cette troisième place
sur Nainggolan, faut pas oublier que cette équipe belge elle a joué avec trois milieux qui jouent dans des clubs qu'on va qualifier peut-être de seconde zone, c'est-à-dire je pense à Chadli, Witzel et Tottenham. Chadli qui joue à West Brom, Witzel qui joue à Quanjin en Chine et Tillmans qui a pas vraiment joué à Monaco, qui jouait pas exactement à son bon poste. Donc c'est trois joueurs qui ont eu des saisons plutôt compliquées et qui ont malgré tout fait une belle Coupe du Monde. Donc est-ce que derrière Nainggolan aurait pu apporter quelque chose de plus à cette
Belgique? Il n'a pas voulu.
Pas forcément, parce qu'elle n'est pas très logique. Elle a quelque chose d'un peu illogique dans cette Coupe du Monde parce que les meilleurs joueurs n'auraient pas forcément apporté le plus de choses dans cette Coupe du Monde. C'est peut-être des joueurs avec des profils un peu différents. Giroud aurait peut-être apporté beaucoup plus que Benzema. Witzel aurait peut-être apporté plus que Nainggolan. Voilà, c'est une Coupe du Monde où il faut pas trop s'appuyer sur la logique et sur la valeur intrinsèque des joueurs, mais plus sur ce qu'ils peuvent apporter dans leur collectif. Et je pense que c'est la force collective qui a fait la force des grandes équipes dans ce mondial.
Le problème avec Nainggolan, c'est qu'il me semble avoir lu que Roberto Martinez est parti le voir pour lui expliquer qu'il serait pas titulaire dans l'équipe et donc il a un petit peu refusé, lui a demandé de pas le prendre, il avait pas envie d'être sur le banc et c'est une erreur puisque on a vu que l'équipe belge a évolué au cours de la compétition, notamment au milieu de terrain. Au début, on pensait pas que Chadli et Fellaini allaient faire leur entrée dans le 11 titulaire. Ils l'ont fait. Après avoir remplacé, je crois que c'était à un moment donné, il avait remanié avec Witzel ou Mertens, Carrasco et Mertens, je crois. Et Witzel, je sais plus, c'était je m'embrouille un peu.
Coup, ils ont gagné leur place.
Ils ont gagné leur place. Donc il aurait pu venir montrer qu'il avait la mentalité pour intégrer ce groupe, pour ce groupe dynamique et revitalisé avec ce nouveau sélectionneur, ce nouveau staff technique. Il aurait peut-être pu apporter cette pierre à l'édifice qu'il a manqué à cette équipe de Belgique, mais c'est lui qui a refusé.
On va te donner la parole à Nabil Zindjik et on va terminer après avec toi Aider concernant cette troisième place.
Non, je trouve que c'est mérité. Ils étaient en quart de finale à l'Euro 2016. Ils ont une très bonne génération qui arrivait à maturité par rapport à la Coupe du Monde 2014 également. Je m'en souviens d'avoir discuté avec l'ancien sélectionneur adjoint de l'équipe d'Algérie, Nordine Kouachi, qui me disait que
c'était
dans cette émission, qui nous a dit que c'était à peu près les mêmes joueurs qui étaient présents en 2014, qu'ils arrivent à un âge de maturité 4 ans plus tard, en 2016, quart de finale. Là, en 2018, troisième place, demi-finale, troisième place. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Après, le seul bémol, c'est que des joueurs comme Hazard, comme Witzel et Vertonghen ou Toby Alderweireld, etc., ils arrivent à 29, 30 ans, donc c'est peut-être leur dernière grosse compétition. Donc ça peut être compliqué pour cette génération. C'est pourquoi Roberto Martinez s'est appuyé sur Youri Tielemans, 20 ans. Dentonger, qui joue à Anderlecht, que je connais bien, défenseur central ou milieu de terrain, qui va peut-être signer, on en parle, à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est une jeune pépite belge qui joue régulièrement avec des champions. Donc il a pris des joueurs talentueux avec plus d'expérience, des jeunes joueurs. C'était un pari de Roberto Martinez qui est là que depuis 2 ans avec Thierry Henry dans son staff technique et finalement ça a payé. Et cette équipe belge, moi, me plaît énormément dans le jeu. Il y a un fond de jeu, il y a un style de jeu pour pourtant ça fait que deux ans qu'il est là, comparé à Didier Deschamps qui est là depuis 2012. Était 2012. Ouais. Hein, ça fait 6 ans. Là, on voit un vrai style de jeu. Il a su gérer Eden Hazard aussi les égos, manager hein, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, etc.
Les faire jouer
ne
ensemble.
Ne pas sélectionner ouais. N'Golan qui a été en demi-finale avec son club l'AS Rome en Ligue des Champions. Mais comme d'autres sélectionneurs, il a du caractère sur Roberto Martinez. Il a fait du très bon boulot à Everton.
J'avoue.
En première ligue. Vraiment. Cette équipe belge, 11 millions d'habitants, nos voisins qui sont, ouais. sont juste à côté, font du très très bon boulot et forment beaucoup de jeunes. Ça me fait penser, je crois en 2015 ou 2016, avec la Gantoise qui avait battu Lyon en Ligue des Champions. Et là, on voyait déjà que c'est la Belgique allait arriver sur la scène internationale. Ça allait dans 4-6 ans, nous verrons de joueurs talentueux, comme on peut le voir notamment en France, comme l'Angleterre. C'était les outsiders. Ouais. Aujourd'hui, ils ont progressé. La preuve, c'est que 3e, 4e place, c'est Belgique-Angleterre. C'est des équipes qu'on attend régulièrement. Comme outsiders, on se dit, voilà, il y a du potentiel, il y a des gens talentueux, mais ils n'arrivent pas au bout. Pourquoi? Ça dépend du sélectionneur. Il faut un vrai manager. Et là, je pense qu'il y a
Belgique. La réaction de Nabil Zendik. On aura remarqué la punchline concernant la Gantoise. Hein. Petit clin d'œil à je crois, Farid Taleb. Farid Taleb, amoureux de l'Olympique Lyonnais.
Effectivement, moi, je
Aider, on termine avec toi, parce qu'après, moi, j'ai du time bleu à faire passer pour les auditeurs de Beurre FM.
C'est que le format de la compétition est surtout favorable, surtout dépend beaucoup. C'est de là va dépendre les choix du sélectionneur. Le format de la compétition est plus sensible à ça. Dans un championnat, t'as une année ou t'as un mois ou deux pour te rattraper si tu fais une bêtise. Tu peux te rattraper. Le championnat, t'as 38 journées. Sur 5-6 journées, tu te rattrapes. Là, dans un tournoi, c'est chaque erreur se paye cash. Donc les choix du sélectionneur, ils sont hyper importants. Tu peux t'appuyer sur le talent d'un joueur qui va te faire la différence, mais c'est pas comme en championnat où si tu te plantes sur les 3 premières journées, tu dis bon allez, la trêve va arriver, je peux me rattraper, il y aura 3-4 journées pour se rattraper. Là, dans le format de la Coupe du Monde, c'est un tournoi, et les choix du sélectionneur sont hyper importants. Donc effectivement, c'est pour ça que je pose la question. Il a fait du super boulot, Martinez, ça ne se discute pas. Mais il va se demander, lui, il va se poser la question tout le temps, est-ce que j'aurais dû le prendre ou pas?
Merci Aider, merci à notre consultante Mariama, mais aussi aux autres consultants qui m'accompagnent durant ces deux heures. Restez avec nous, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Et même, on peut apercevoir vos réactions sur la twittosphère. On n'oublie pas la dernière partie avec cette fameuse équipe de France qui rencontrera demain du côté du stade de Nujniki à Moscou, l'équipe de Croatie. À de suite.
Time Foot Weekend revient dans un instant. Beurre FM, 18h-20h, Time Foot Weekend, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de ce Time Foot 18h-20h avec les consultants pour m'accompagner durant ces deux heures. Alors, on le rappelle, Saïd Hamda, consultant Time Foot, Nabil Zendik, conseiller sportif, Alexandre Seban, auteur et journaliste, Aider Nemi, consultant Time Foot, Mariama Benrabia, journaliste chez nos confrères de Eurosport, et sans oublier toi, Nassim Bourras, notre spécialiste football allemand et consultant Time Foot durant ce mondial. On a fait un peu le tour de cette phase finale de Coupe du Monde. On a même parlé de ce Belgique-Angleterre, le match pour la troisième place, où on a vu la Belgique remporter ce match et médaillé de bronze donc de ce mondial 2018 par l'intermédiaire dans un premier temps de Meunier et aussi de Eden Hazard, peut-être en partance pour le club de la capitale espagnole.
C'est Madrid.
Ah oui, le plus grand. Je me retourne vers Saïd. Oui, Retafé, non. Je me retourne plus. Madrid, oui. Le Madrid de Zinedine Zidane. Il restera dans les cœurs pendant longtemps. Oui, mais il restera encore.
Le Madrid de Lopetegui.
Oui, de Lopetegui, maintenant.
Tout de suite,
place-nous à la dernière partie de cette émission avec la partie Time Bleu.
Time Foot Weekend. L'analyse.
Est-ce que Didier Deschamps devra changer sa composition pour cette fameuse finale qui l'opposera à cette sélection croate? On t'écoute, Mariama.
Non, pourquoi changer une équipe qui gagne?
Ah, ouais.
Ça, c'est la question que je vous pose. Ouais, non, mais il changera pas. Je pense pas qu'il prendra des risques à ce niveau de la compétition. Certes, ça joue mal, c'est pas beau à voir, mais ça gagne. Donc au final, c'est efficace. Donc moi, je pense qu'il jouera toujours de la même manière, toujours aussi défensif. Et qu'il tentera de s'offrir une occasion sur un contre ou sur une accélération, et puis voilà. Ou sur les coups de pied arrêtés, toujours.
Tactiquement, Didier Deschamps a-t-il surpassé tous les autres sélectionneurs lors de ce mondial? Nassim Bourras, on t'écoute.
Alors surpasser, bah c'est un grand mot.
Ah ben moi je te pose comme ça.
Oui, ça c'est un grand mot.
C'est une relance. Et voilà. En fait, qu'est-ce qu'il y a? On a parlé de ça, les bookmakers, les nombre d'observateurs
Gino,
football.
Gino,
eh oui, on le sait. Disons, tu as pleuré lorsque Joachim Löw est sorti. Et
encore une
est allé
fois,
dans
il
les
a une
vallées,
coupe du monde lui.
Il
a une coupe du monde et une coupe des confédérations.
Chaque fois il me le renvoie dans la tête.
Non non, mais après surpasser c'est un grand mot, mais disons que c'est, il fait partie des entraîneurs comme Southgate qui ne sont pas tombés dans le panneau du tout dans la possession et du j'ai des joueurs techniques, on va essayer de jouer là-dessus. Non, il a été plus malin que les autres, surpassé, encore une fois c'est un grand mot, mais disons que il a trouvé la solution à ce problème qui était posé dans ce mondial. Dans ce mondial, là, le problème est le suivant: si vous dominez là-bas, au niveau de la possession, ce n'est pas forcément un gage de réussite. L'Allemagne, l'Espagne, le Brésil l'ont montré. Derrière, il essaie de trouver une autre solution. Il essaie de trouver, de mettre l'axe sur la maîtrise du ballon. Savoir quoi en faire, savoir quoi faire de sa possession. Et c'est justement sur quoi doivent bosser le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne. Parce que la France, quand ils ont le ballon, ils savent quoi en faire. Et c'est ça leur force principale. C'est ça leur force principale.
Alors, quoi? Ouais. Et là, ça fait beaucoup parler.
Non, ballons en profondeur à Kylian Mbappé.
C'est une utilisation du ballon. C'est une utilisation du ballon qui est intéressante et surtout qui est efficace. Parce qu'à la fin, derrière, ça fait que la France est en finale de Coupe du Monde. Alors certes, c'est pas un jeu flamboyant, c'est pas magnifique, mais c'est efficace et c'est ce qu'on a demandé à ces champions, c'est des résultats.
On le saura s'ils sont champions.
Alors le mérite de Deschamps,
le mérite de plus efficace que l'Allemagne pour le moment.
Le mérite de Deschamps.
Analyse bien Alexandre, tu vas réagir juste après, t'inquiète pas.
Ce mec là, il est né les deux pieds dans le béniquier, c'est pas possible.
Ah.
Parce que le mérite de Deschamps, c'est de savoir exploiter des situations favorables. Parce qu'on dit pudiquement situation favorable, pour ceux qui ne comprennent pas, en français, ça peut être de la chance. Le gars, il arrive contre l'Argentine, il joue contre une Argentine, alors ça fait beau gosse sur le CV.
Décimé.
C'est l'Argentine la plus pourrie que j'ai jamais vue depuis que je regarde la Coupe du Monde.
Je suis d'accord.
En quart de finale, il joue contre un Uruguay, qui normalement, c'est comme un A340, il y a un réacteur d'un côté, un réacteur de l'autre, il y en a un qui était éteint, il n'a pas Cavani, on sait que l'Uruguay, sans l'un des deux, c'est pas la même équipe. En demi-finale, il tombe contre une Belgique où il n'y a pas Thomas Meunier. L'entraîneur est obligé de changer tout son système. Il exploite, bon, il y a une tête de d'Umtiti. Il sait très bien, Deschamps, qu'après, il n'aura plus d'occasion comme ça. Il met le bus devant les buts. Moi, pour moi, c'est un gars qui est opportuniste au possible. Il le fait bien, tant mieux pour lui. Il gagne, il arrive en finale. Si demain il gagne, et je le répète, ça sera le champion du monde le plus moche de l'histoire du football.
On va arriver justement à cette France champion du monde.
Ta question initiale, Bilou, c'était de nous dire est-ce qu'il doit changer la composition.
Oui, la composition.
Bien entendu, il ne changera pas. Mais, si à un moment donné, parce que le match dans le match demain, ça va être Pogba-Kanté contre Modric-Rakitic.
Ouais.
Le truc, c'est qu'ok, la France va essayer de détruire tout ce que la Croatie va essayer de construire. Mais à un moment donné, il faudra que tu répondes à la question technique que les Croates vont te poser. Il faudra que tu fasses rentrer du technicien. Et le seul technicien qu'il a dans l'équipe, de niveau mondial, on va dire Tovin, mais de niveau mondial, c'est Nabil Fekir.
Allez, on écoute Nassim Bouaz. Rapidement, le droit de réponse avant d'entamer la réaction avec les autres.
Oui, Didier Deschamps a eu de la chance, on va pas se mentir là-dessus. Mais tout miser, tout mettre sur le crédit de la chance, c'est un peu dégueulasse parce qu'il a quand même fait un travail fantastique avec cette équipe de France. Alors certes, il a pas fait le travail qu'on aurait pu attendre des joueurs qu'il a. C'est vrai qu'il a des joueurs très techniques qui peuvent être utilisés d'une autre manière, plus intéressante, mais tout mettre sur le crédit de la chance, non. Faire passer Meunier comme le De Bruyne ou le Hazard de l'équipe de Belgique, non, désolé, c'est lui donner trop de valeur. Ok, il est très fort, il est très bon à son poste, mais non, désolé, c'est pas un joueur.
C'est parce qu'il est.
Et attention, pour l'équipe d'Argentine, je suis d'accord, c'est vrai que.
Bon, il a pas tort.
Non, il a pas tort.
Je dis juste qu'on a l'habitude de dire oui au niveau, les équipes se valent, ça se joue sur des détails.
Oui,
le petit détail qui fait pencher la balance, c'est cette petite absence.
Moi, le terme que j'utiliserais, justement, c'est pas chanceux, c'est opportuniste.
Oui, quand Meunier, j'ai pas dit que Meunier c'était hasard, j'ai dit que l'absence de Meunier oblige Martinez à changer tout son système. C'est pas une question que l'équipe de France est dénuée de talent ou que Deschamps connaît rien au foot. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire pencher la balance de ton côté.
Il y a pas de
souci. Et ce petit grain de sable.
Ah, mais il faut un peu de chance aussi.
Football, on est d'accord. Mais le truc, c'est que la chance, des fois, elle est de ton côté, des fois, elle est en face. Mais là, avec Deschamps, elle est toujours de ton côté.
Mais non, mais pas
en 2016. contre le Portugal.
Regarde l'Espagne par exemple. L'Espagne se retrouve contre la Russie. On peut dire, ah, c'est quand même extraordinaire que l'Espagne se retrouve contre la Russie à ce moment-là.
C'est un autre problème.
Oui, mais voilà.
L'Espagne,
mais
ça, va analyser l'Espagne.
Aussi, ils auraient pu être opportunistes. Ils l'ont pas été. C'est vraiment triste de mettre tout sur, de faire passer Deschamps pour un opportuniste. Non, désolé. Ok, il a eu un peu de chance.
On a compris.
Il a su tirer le plein parti de ses joueurs. Tu parlais de Martinez tout à l'heure, comme quoi il a réussi à tirer le potentiel de ses joueurs. Pourquoi on ne pourrait pas dire la même chose de Deschamps? Je suis pas un adepte.
Si, on dit la même chose.
Je suis pas un adepte du jeu de Deschamps, mais
ça il a fait des choix.
C'est facile de dire ce que j'ai dit. Donne Deschamps à un entraîneur joueur, je te jure que l'équipe de France escalade ma 4-0 à tout le monde.
Et je pense du bien, Nassim.
Non, on pense du bien de Didier Deschamps, je suis désolé. Ouais. C'est vrai qu'il faut souligner, il a fait des choix forts.
Je pense pas du bien, non.
Honnêtement, il a fait des choix forts, notamment en défense.
Tu as le droit.
Avec Pavard et avec Hernandez, c'était des choix forts. Ça a fini par payer.
Oui.
Tu parlais également contre la Belgique, ça s'est joué sur un coup de pied arrêté. Moi, ça me fait penser à 2014, Coupe du Monde 2014, où la France se fait éliminer par l'Allemagne aussi également sur un coup de pied arrêté, sur une tête. Donc il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'analyses vidéo.
Ça tourne, bien sûr.
Ça tourne. Ils analysent tout. Les moindres gestes des joueurs, etc.
Je te parle juste de cette Coupe du Monde. Je te parle juste de cette Coupe du Monde. Je te dis que dans cette Coupe du Monde, ça roule toujours dans son sens. Alors
pour l'instant,
ça va s'arrêter demain.
Pour l'instant, parce que là, on aura deux styles de jeux différents. Ouais. Les Croates qui vont avoir la possession, ils le savent très bien, qui vont essayer de jouer au ballon, qui vont essayer de trouver des brèches, qui vont essayer de déséquilibrer cette équipe bien en place. Parce que on disait que cette équipe de, avant le mondial, on parlait de l'attaque. On disait on a une armada offensive. Par contre, on avait des doutes sur notre défense. Aujourd'hui, notre défense est le point fort de l'équipe de France.
C'est ça.
Avec des milieux de terrain dont on parle pas assez. Matuidi qui a été très bon contre la Belgique,
un poste
qui a été l'un des meilleurs, un Paul Pogba qu'on trouve aujourd'hui qui est très bon, il a été critiqué à l'Euro 2016, on l'attendait beaucoup, aujourd'hui il confirme. Voilà, c'est un travail de l'ombre, c'est vrai qu'il touche moins le ballon, il joue plus simple, etc. Et on a également N'Golo Kanté qui est un top player et tout le monde est d'accord et unanime pour dire que quand tu as ces trois milieux de terrain, Varane, Mtiti, ils sont tranquilles.
Alexandre Seban, l'écoute concernant cette équipe de France, la partie Time Bleu, la dernière de cette émission.
Haider a invoqué l'histoire de la Coupe du Monde. Il faut se souvenir évidemment, bien sûr, que chaque champion a aussi un petit peu de chance qui tourne en sa faveur pour aller au bout. Alors évidemment aussi, Mariama tout à l'heure disait que l'équipe de France ne jouait pas bien. C'est vrai, c'est moche, c'est pas hyper beau à voir. Ceci étant,
ça fait six ans quand même.
J'allais dire,
ça,
justement, tu as raison.
Et notamment, n'oublie pas le France-Danemark où c'était le mondial.
On le laisse poursuivre.
C'est vrai qu'on est loin de la Hollande 74, du Brésil 70, 58 ou 62. On est loin de l'Espagne de 2010 qui proposait du très beau jeu, même de l'Allemagne de 2014 qui proposait un jeu un peu à l'espagnol. C'est dommage parce que effectivement, il y a un potentiel avec cette équipe de France. Il y a des joueurs qu'on dit extraordinaires, techniquement très forts, Mbappé, Griezmann. Sur le banc, il y a Fekir. On a aussi cité Florent Thauvin qui est peut-être avec un peu de métier aussi entrera dans les plans, Dembélé. Il y en a d'autres d'ailleurs qui ne sont peut-être même pas aussi sélectionnés encore.
C'est l'équipe la plus chère, hein. Faut savoir.
Et c'est
aussi,
vrai,
hein.
Tu as raison. Il y a peut-être un potentiel, il y a des associations qui auraient pu être faites depuis plusieurs mois pendant les matchs amicaux. Ça sert aussi à ça, normalement, les matchs amicaux.
C'est
faire
vrai.
Jouer par exemple Mbappé et Griezmann ensemble, un peu à la brésilienne des années 94-98, Romario, Ronaldo. Ça aurait pu avoir de la gueule, ça aurait pu marcher. On n'était pas obligé de jouer tout le temps avec Giroud. Ceci étant, comme l'a très bien dit tout à l'heure Nassim, Didier Deschamps tire la quintessence du groupe et des joueurs qu'il a. Il a décidé, parce que c'est sa philosophie aussi, de jouer en bloc bas avec des joueurs très défensifs. Il nous fait croire que Matuidi, l'ailier gauche, mais pas du tout. Matuidi redescend. Quand on voit bien le match contre la Belgique, on a à un moment donné, on retrouvait Pogba et Matuidi alignés avec les quatre de derrière, Kanté qui était aussi avec eux, et les trois de devant qui se baladaient pour exploiter une potentielle solution. Ceci étant, c'est vrai que c'est pas beau, ça nous plaît pas, parce que nous, j'ai l'impression, ou en tout cas beaucoup de gens autour de nous aiment ce jeu chatoyant qui pourra peut-être arriver si le titre est au bout demain. Rappelez-vous l'équipe de France de 98, c'était pas non plus l'équipe de Platini, hein, souvenez-vous bien de cette époque, faut pas non plus inventer des souvenirs. C'était chum, et enfin c'était beau défensivement, il y avait de la solidité, mais c'était pas beau. Et après le titre de 98, là ça avait de la gueule, là on a dominé le monde pendant 4 ans, et en 2002 on s'est fracassé malheureusement avec des circonstances particulières, mais on était la meilleure équipe du monde, même en 2002, on était plus fort que le Brésil.
Bien sûr.
Et
voilà, peut-être que ça viendra. Il faut laisser le temps. Laissons Deschamps faire. Il est en poste. Il y sera encore pendant 2 ans, visiblement. Oui, il a trouvé son ossature. Il a trouvé son groupe. Il a trouvé la mentalité. Il va peut-être demain trouver le plus beau titre du football mondial. Et peut-être que derrière, on aura du jeu. Il intégrera les Fekir. On a envie de voir Fekir. Ouais. On a envie de voir aussi
la Coupe du Monde.
Mais je crois que c'est pas Michel Hidalgo. Il ne mettra pas 4 numéros 10 sur le terrain.
Merci Haider. On va laisser la parole à Saïd. Haider. Chacun a le droit de s'exprimer. Haider. Je sais que tu connais très très bien le football, Haider, et je t'en supplie, il y en a qui aimeraient s'exprimer, tant d'auditeurs aussi.
Encore,
on n'est pas obligé de Saïd, il doit s'exprimer sur cette fameuse équipe de France. Il a tant de choses à dire aussi. Bon. T'inquiète pas, on reviendra aussi sur les joueurs peut-être oubliés. Ça fait plaisir dans ce studio.
Je vais poser 2 questions. Ouais. La première, est-ce que Deschamps va changer de système de jeu? On va passer brièvement là-dessus. Non, il va pas changer, ça va de soi. Ensuite, tu as demandé tactiquement, est-ce qu'il a dépassé ou surpassé les autres coachs? Bien sûr que non, je vais te faire une liste non exhaustive des meilleurs coachs qui ont été meilleurs que lui. Le coach du Japon, le coach du Sénégal, le coach de la Belgique, le coach de la Russie, et j'en passe, ont été meilleurs que lui tactiquement. Deschamps, il avait un effectif que les autres n'avaient pas. Donc tactiquement, ouais, la Croatie aussi. Mais c'est pour ça que j'étais non exhaustif, parce que je voulais pas citer tout le monde, mais je pourrais même citer le Maroc aussi. Avec les moyens du bord, ces coachs-là ont fait mieux que
la Russie aussi.
Ouais, je l'ai dit, la Russie.
L'Iran, alors aussi, on peut y aller.
Elle va me chercher même l'Algérie aussi. Allez, vas-y, tout le monde.
Allez, c'est parti.
Non, mais voilà.
Là, j'ai cité au moins 5, 6, voire 7 pays où leurs coachs ont été meilleurs que Didier Deschamps. Tactiquement, je parle. Il faut savoir que ces coachs-là n'ont pas l'effectif qualitativement de l'équipe de France. Aujourd'hui, je ne sais plus, c'était Nabil qui disait ça tout à l'heure, l'effectif est estimé à plus d'un milliard d'euros, ce qui n'est pas le cas des autres équipes. Donc tactiquement, pour moi, Deschamps n'a rien montré. Il a juste montré qu'avec le talent de nos joueurs, on pouvait aller loin. Fin de l'histoire.
Ouais. Pour terminer, il nous reste 4 minutes dans cette fameuse émission du samedi 18h-20h, le Time Foot. On va écouter Mariama. Cette équipe de France, peut-être avec champion du monde, elle sera champion du monde. Je reprends les propos de Haider, avec un jeu moche. Et il n'y a pas qu'Haider qui le dit, parce que nombreux aussi, l'amoureux du football l'ont dit récemment.
Il y a de grandes chances avec un jeu pareil, de toute façon, qui est efficace aujourd'hui en plus. Ça reste un jeu assez efficace. Il n'y a pas de possession, c'est pas le jeu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas le jeu actuel. Donc, et profiter d'une opportunité à un moment donné du match, alors soit sur coup de pied arrêté, soit sur un contre, c'est le jeu qui réussit. Et donc je pense que cette équipe de France pourra aller au bout et remporter cette Coupe du Monde. Je sais pas dans quelles conditions ça pourrait se produire et comment, avec cette Croatie qui va arriver normalement un peu fatiguée dans cette finale. Avec les 3 prolongations, on va le répéter encore et encore.
C'est vrai.
Les 3 prolongations.
On est un peu blessé d'ailleurs.
Oui,
on
puis exactement. Et donc tout le flanc gauche de la Croatie qui pourrait être amputé. Puisque du coup, si on n'a pas Perisic et Stranić, du coup ça pourrait être compliqué pour cette Croatie aussi. Donc on ne sait pas comment va se présenter cette Croatie face à l'équipe de France. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va jouer.
La belle indique.
Bah écoute, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit.
Ouais,
c'est-à-dire que
Mariama,
cette Croatie qui n'a aucune pression, parce qu'on ne les attendait pas en finale, alors que l'équipe de France qui est arrivée en finale à l'Euro 2016, alors si Didier Deschamps perd une deuxième finale de suite,
il sera l'homme maudit finalement.
Attention, finalement la chance
elle est
plus
là.
Avec un jeu, alors là il aura tout perdu. 2 finales avec un avec aucun jeu, aucun fond de jeu, etc. Donc à mon avis, ça va être très très chaud l'après finale de demain. Ça dépendra du résultat. Cette équipe croate, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on dit oui, ils sont cuits, etc. Mais je trouve qu'ils ont cette capacité à résister.
Oui,
c'est juste incroyable.
Régénérer.
Basic,
plutôt, ouais.
Qui était blessé, qui continue à jouer. Rakitic également. Et c'est 2 styles différents. Demain, on va avoir un match, mais j'espère que ça va être haletant. On va vibrer.
On espère tous.
Pour l'instant, on est qu'en finale. On est en finale. Voilà, c'est la chanson. Oui. Maintenant, est-ce qu'on va prendre le Graal? Je dirais que c'est du 50-50.
Merci. Nabil.
Ça se joue aussi avec un peu de.
C'est la fin de cette émission. Rapidement, les pronostics avant la fin avec toi, Mariama Benrabia. Pronostics pour cette finale, France-Croatie.
Une victoire de l'équipe de France.
Le score 2-1 pour toi, Mariama. Nassim Bourras, consultant Time Foot, on t'écoute. Le pronostic France-Croatie finale de ce mondial 2018.
Je vais être un peu mauvaise langue, je vais mettre 3-1 Croatie.
3-1 pour Croatie. Ah, waouh, il va fort, Nassim. Alexandre Seban.
Je vois pas la défense française s'effondrer
le
comme Nassim.
Pronostic.
Je dirais tout simplement
3-0 pour la France.
3-0 pour la France, pour Alexandre Seban. Et
vous la voyez très offensive.
Ouais.
sur des coups de pied arrêtés, sur un peu de folie sur la fin.
C'était Giroud.
Saïd Hamda, notre consultant Time Foot aussi. Alors,
moi, je
Saïd.
Gère 3-1 aussi, mais pour 3-1. La France, pour le coup.
Pour la France, hein, pour les hommes de Didier Deschamps. On écoute Nabil Zendik, conseiller sportif.
Un partout, prolongation, tir au but.
Et qui gagne?
Et victoire de la France.
Et victoire
match,
de la France.
Il y a du futur pour nous sortir et tout
ça. Il est là, Martin.
Et Haider, Némi, consultant Time Foot aussi dans cette émission.
Je pense que ça va.
Le pronostic.
Les Croates vont être victimes de, malgré tout, de leur état physique. Et que la France va l'emporter 2-0, doublé de Nabil Fekir.
Dans le dernier quart d'heure.
Dans le dernier quart d'heure.
Et pourquoi
oui.
Le Lyonnais.
Dans les 60 premières minutes, la différence ne se fera pas sentir.
Je pense, à la fin, la France va l'emporter 2-0, doublé de Nabil Fekir.
Mais elle a combien la cote du doublé de Fekir?
On ne sait pas.
Question.
On ne sait pas. Tu regarderas directement sur ton portable. Un grand merci à toute la rédaction sport et rédaction de Beurre FM. Merci à la direction et aussi à la technique. Sans oublier Yanis, notre réalisateur. Ce soir, on se retrouvera lundi à partir de 21h jusqu'à 22h pour la dernière émission de Time Foot et on bouclera ce mondial, sans oublier aussi les community managers de l'équipe de Time Foot et sans oublier aussi Nasser justement, oui. Ah oui, Nasser Kétan, justement. Oui, Nasser Kétan, mais aussi Nasser Sondia, qui est convalescent aussi. Mais on pense plus particulièrement à Nasser de nous avoir permis à vous offrir cette émission durant cette compétition. Un grand merci aux consultants. On vous laisse en compagnie.
Bravo,
des programmes de Beurre FM.
Bye bye. Allez les Bleus.
Et allez les Bleus.
Retrouvez Time Foot Weekend tous les samedis de 18h à 20h sur Beurre FM.